Bonjour à tous, petite balade romantique douce pour se réveiller en douceur en ce mardi matin. Comment ça va? On va faire des petites choses, on va mettre un peu de lumière dans ce studio. Le soir quand on fait du gaming, qu'on fait de la compétition, on baisse un peu les lumières pour avoir le regard pas perturbé. Quand on va de A en B, de B en A, de C en... Enfin bref, vous avez compris le principe. On a eu la casquette. La casquette c'est pour le soir, c'est pour le gaming, pour les mêmes raisons. Et on fait un petit tweet parce que je n'ai pas annoncé ce live pour annoncer à l'humanité entière. Évidemment, nous sommes attendus dans le monde entier par tout le genre humain, hommes, femmes et les animaux, les chiens, les chats, les perroquets aussi. Ce stream. Alors, on va écrire ensemble double stream ce mardi. Hop, là tout de suite. Alors, c'est où le petit tiret, là? Là, avec un petit accent. Ah, tout de suite, on lit les journaux. Ah, ça, c'est cool. Il y a des trucs sympas ce matin. Vous allez voir. Un peu de tout. C'est pas mal ce matin. Je vous ai pas mis 1000 articles de côté. Je vous ai mis que de la bonne cam. Et ce soir, on essaye de passer. Et là, je marque une pause parce que le moment est important. Et ce soir, on essaye de passer, faire 3, mesdames et messieurs. J'ai bien dit faire 3. J'ai pas dit faire 2, j'ai pas dit faire 1. Hier soir, des games de folie. C'était incroyable, avec des super amis, avec Flamby et ses amis. Voilà. On a fait 5 games classés, qu'on a toutes gagnées. Enfin, surtout mes mates, enfin bon, peu importe. Qu'on a toutes gagné et je suis passé de faire 1 à faire 2. Je suis sur le bord du faire 3. Voilà. Le truc que je n'ai jamais fait, jamais fait, jamais fait. On est à une game du faire 3. C'est-à-dire que si, je vais lancer de la solo queue ce soir hein, pour ne mériter cette ascendance que grâce à mes talents voilà, de head shooter. Eh bien, ce soir, notre première solo queue peut nous emmener en faire 3, mais il ne faut pas la perdre. Voilà. Donc, je tweet. Double stream ce mardi. Là, tout, et ce soir, on essaie de passer faire 3. Virgule, oui. Mesdames et messieurs. Mesdames. Et messieurs. On ne dit plus mademoiselle, hein, c'est ringue. Sinon, cringe, disent certains. J'ai bien dit. Faire 3. Ah putain, j'ai tapé F3 comme France 3. Ah, c'est marrant les lapsus. Tiens, c'est marrant. Et ce soir, on essaie de passer faire 3. Oui, mesdames et messieurs, j'ai bien dit faire 3. Ouais. Voilà. Ouais. Craignez, tremblez. Tremblez. Arthur, excusez-moi, je fais mon tweet. Hein. Il est où le Arthur? C'est quoi son ce qu'on stream? Arthur, c'est le CEO de la K-Corp. Il m'a défié. Il est où Arthur? Je vais trouver son blaze. Ou Arthur. Perticose. Non, c'est ça. Pourquoi il le trouve pas? Ah, bah j'ai pas mis de H. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis Billy aussi, bien sûr, Rebeu de terre. Toi aussi tremble, mon ami. Je relis le tweet. Parce que. Oh, ce raid de fou, Pépin, comment vas-tu? Tiens, faut que je t'envoie des choses pour dimanche prochain. Ouais. Pépin, merci pour le raid. Pépin, notre graphiste, notre artiste préféré, celle que vous voyez aussi dans mes streams souvent pour du gaming ou pour assurer la régie lors de la foulée Étienne. Pépin, merci d'être avec nous. Vous avez fait quoi ce matin? Du dessin? Vous avez parlé de choses? On relit le tweet. C'était super, Flambie, hier soir, Mathias. Double stream ce mardi. On est bien mardi, hein. Là, tout de suite, on lit les journaux. Et ce soir, on essaye de passer faire 3. Oui, mesdames et messieurs, j'ai bien dit faire 3. Et j'ajoute, craignez, tremblez. Je mets deux points. Messieurs Rebeu des Terres et Arthur Perticoz qui ont eu l'outrecuidance, l'insolence, je dirais même l'inconscience de me défier sur Valorant. Voilà. Je peux dire que ça va. Il y en a qui vont passer une mauvaise journée là. Ça va stresser, ça va stresser. En vrai, il est drôle ce tweet. Bon, allez, ça va vous. Merci Andrea pour le 15e mois. Merci Pépin encore pour ce gentil raid. Vous avez fait quoi ce matin chez Pépin? TVA 74, merci pour le 23e mois et le gentil message qui va avec. Token Screamer, merci beaucoup pour le 2e mois, je t'ai vu. Petit Lucky, merci beaucoup pour ce 16e mois, je t'ai vu. Mélissa, merci beaucoup pour le 7e mois, je t'ai vu. Bon courage pour ce matin, je vois que tu travailles. Ayeskios, merci pour le 2e mois. Didou, merci pour le soutien. Skyland, Astroboy, pour ceux qui ont sub dans la nuit. Ça va vous? On a eu un beau article ce matin, vous allez voir, on va évoquer des sujets que je trouve super intéressants. Est-ce qu'on envoie de la force à Kejiro, s'il vous plaît, de Kejiro qui est malade et qui est avec nous ce matin? Est-ce qu'on peut, je ne peux pas te soigner à distance. À distance, je ne sais soigner que les berlines allemandes, voilà, par la pensée. Voilà. Si vous avez une grosse berline allemande en panne dans votre garage, je peux la guérir, la réparer à distance. C'est un talent que j'ai. Moi, je vous envoie mon IBAN, si vous voulez, en MP. Mais je ne peux pas soigner les maladies humaines, uniquement les maladies mécaniques sur berline allemande. Voilà. Je vous fais des devis à partir de 2000 euros. Voilà, et bon, ça, c'est le tarif de base, juste pour regarder ce qui se passe. Puis après, je vous fais des devis un peu plus précis. Je fais les oui, RS8 de 2012, je fais, ouais. Ah bah, allemande, j'ai dit. Mm. Non, bah, non, je ne fais pas les Twingo, par contre. Ouais. Oui, c'est raisonnable, je trouve aussi. Oui. Soltix, merci pour le Prime. je suis bronzin, ça te dirait de jouer une partie, un de ces quatre ensemble, ce serait vraiment génial. Mathias, j'adore jouer avec des viewers. J'ai une dizaine de demandes par jour de gens qui m'envoient très gentiment leur ID Riot et leur rank pour jouer. Donc j'essaye de faire des parties des viewers, mais évidemment, je n'aurai pas de plusieurs vies pour répondre à toutes les invitations à jouer. Voilà. Je suis un peu druide, ouais. Un petit peu, ouais. Est-ce qu'on peut m'envoyer un mail pour la berline allemande? Tout à fait, Vocta, tout à fait. Sur mon compte Twitter, tu as mon mail pro, tu peux m'envoyer, je t'envoie un devis. Voilà. Je ne vais pas être trottinette électrique, par contre. Ouais. Oui, on a parlé ce manière de l'article de Libération sur le décès d'Akira Toriyama. On a parlé de Toriyama, on en a parlé dès vendredi, on en a reparlé ce matin avec un très bel article dans Le Monde, et on est retourné sur cet article de Libération qui avait... provoquer quelques réactions. Je ne fais pas de la vaisselle, Clavakine. Non, je ne fais pas de la vaisselle. Non. Je n'ai pas 1000 talents, j'en ai un. Je fais les berlines allemandes. Ouais. Monsieur Biganon, merci beaucoup pour le 5e mois. News FR, merci pour le 18e. Je ne veux pas étaler, non. Je répète calmement et doucement, sans m'énerver. Je répare à distance les berlines allemandes, les voitures. Voiture, les berlines allemandes. Arrêtez avec vos télés, vos frigos, les machins. Les faire passer, je ne fais pas non plus. Je ne fais pas les PC, Mokhtar. C'est fou, ça. Oui, BMW, c'est allemand. C'est le mec qui s'énerve. Oh, quel bonheur. Je ne fais pas les Tesla, Morgan. Mais berline, B-E-R-L-I-N-E-S, allemande, A-2-L-E-M-A-N-D-E-S, bordel. Non, c'est Seat et Skoda, non. Je fais pas les Alpines. Je répare les cœurs. Oui, Critics, pour toi, je serai une exception. Oui. C'est pas un poster, Alessio, c'est un tableau de Tintin qui m'a été offert par mon beau-papa, Damien. Je fais pas les deux chevaux, je fais pas les jaguars. J'aime votre humour. J'aime. Smanir, j'ai trouvé ça scandaleux, leur article La Libération, un manque de respect total. Non, Smanir. Tu n'as pas trouvé l'article de Libération scandaleux. Tu as trouvé le titre de Libération scandaleux. En tout cas, super maladroit. Mais si tu as lu l'article de Libération, j'espère que tu l'as fait, Smanir, qui fait 3 pages, je crois, au moins, l'article, tu l'as trouvé génial, parce qu'il est génial. Voilà. Donc attention, ne vous arrêtez pas à la surface des choses. Libération a raté son titre, qui n'était pas le titre le plus... alors qu'ils font de très belles unes, c'était pas le, franchement leur meilleur titre ever, ça c'est sûr. Voilà. En revanche, ce qui m'embête un peu avec Twitter et les colères de Twitter, c'est que je pense que 99% des gens qui ont critiqué Libération n'ont pas lu l'article. Ah oui, bah oui, c'est 3 pages, alors c'est long, hein. Faut lire, hein. Puis il faut acheter le journal. Donc ils ont raté leur titre, mais l'article était topissime. C'est même le seul journal national samedi qui consacre sa une à la mort du mangaka. Voilà. Donc c'est Libé qui a un rapport particulier au manga et à la BD. C'est Libé qui est le journal national qui a consacré le plus de pages à la mort du mangaka. Et avec un très bon dossier, très bel article. Voilà. Donc il faudrait même limite applaudir Libé. Bon, par contre, ils ont raté leur une et leur titre. Ça arrive. Voilà. Donc tu ne peux pas parler de l'article scandaleux de Libé puisque l'article est excellent. Par contre, leur titre était naze. Eh ouais. Voilà. Ah bah. Non, du coup, c'est ce qu'on a fait hier, en fait. C'est parce que du coup, comme on parlait ensemble de cette polémique, on est allé voir. Parce qu'ici, on est en mode sérieux et on n'est pas en mode « Ah ouais, alors il paraît que vraiment, Libé, ils ont fait de la merde. Ouais, c'est vrai, Libé, ils ont fait de la merde. Tu l'as lu, l'article ?»« Non, mais ils ont fait de la merde. Tu as vu ?»« Non, mais t'as lu l'article ?» Non, mais ils ont fait de la merde. Non, mais tu l'as lu, toi ? Moi non plus. Mais ouais, mais t'as raison, ils ont fait de la merde. Donc, alors ici, on fait pas ça. Donc, du coup, on est allé lire l'article. On a vu que la une n'était pas terrible, et que le titre était un peu raté. En revanche, on a lu l'article et on a vu que c'était un super article, hyper carré, hyper sérieux, et que Libé était le seul journal à avoir fait sa une samedi sur ce truc. Voilà. Mais ça, c'est la différence entre l'émotion de Twitter et qui réfléchit pas toujours parfois. Et ce qu'il faudrait faire au quotidien, c'est-à-dire toujours, avant de se prononcer, prendre position, prendre parti sur un truc, ben, gratter un peu le truc. Hein. Et du coup, les tweets seraient devenus GG Libé pour l'article et le dossier sur la mort du papa de Dragon Ball samedi. Vraiment super. Par contre, votre titre était naze. Ça, c'est un tweet qui a fait du sens. Mais bon, du coup, ça fait moins de likes. Quoi. Merci à 67 pour le 9e mois. Alors, je dis pas que c'est pas... Oui, comme le dit Lord Plins, en même temps, c'est bien pour ça qu'un titre est important, il forge le reste de la lecture, et je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi la responsabilité du journal de faire un bon titre. Voilà. Récemment, je me suis fâché avec un journal que je citerai pas, un journal que je lis tous les jours, que j'aime beaucoup, qu'on fait un article à qui j'ai donné une interview sur un sujet. Moi, je donne plus beaucoup d'interviews maintenant parce que, bon, j'ai moins envie, quoi, de communiquer sur ce que je fais, je préfère en parler ici. Et donc je le fais de façon un peu exceptionnelle parce que je le fais plus beaucoup, un article, un journal de qualité, tu vois, je me dis ouais, j'ai super que cet article, ce journal s'intéresse à moi, donc je donne donc l'article est top et le titre c'était de la merde. C'est-à-dire que le titre allait totalement à rebours quasiment à l'inverse de 90% de ce que je disais dans l'article, mais ils étaient allés chercher une petite idée, un tout petit moment de l'interview qui ne reflétait pas du tout la philosophie générale de ce que je disais, voilà. Et en fait, et ils le mettent en titre, voilà. Première faute. Le titre, il peut être incitatif, il peut donner envie de lire l'article, mais il faut qu'il reflète quand même ce qu'il y a dans l'article. Donc ça, déjà, je trouve ça maladroit ou malhonnête, alors que c'est un grand journal. Et le deuxième truc super grave, c'est que ce titre, il a fait un peu le buzz d'ailleurs sur toujours Twitter, parce que ce titre était vraiment de la merde. Et quand vous cliquiez sur le lien de l'article, proposé par le fameux titre un petit peu pour qui faisait un petit peu réagir, eh ben vous pouviez pas le lire. Ben non, fallait être abonné. Ok, donc 99% des gens sur Twitter qui sont pas abonnés au Monde à supposer qu'ils veuillent lire l'article, bon ben après je pense qu'il y en a plein qui de toute façon ça les intéressait pas, ne pouvaient pas le faire. Ok, alors là j'ai écrit un mail à ce quotidien, j'ai dit mais en fait, journalistiquement, votre truc, ça ne va pas, en fait. Vous faites, un, comme le dit Brininis, vous faites un titre putaclic. Vous, paf, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas, en général, c'est pas le journaliste qui écrit l'article qui fait le titre. Souvent, le titre, il est fait par un autre journaliste, un poste qu'on appelle souvent le secrétaire de rédaction, et dont le métier est de faire la titraille, le titre, le surtitre, le sous-titre, l'intertitre, etc. Voilà. Et donc, le journaliste me dit, ben, c'est pas moi qui ai choisi le titre, mais je vous trouve un petit peu dur. Je dis, ben non, je suis désolé, ce titre, c'est de la merde. Voilà. Et je dis, en plus, vous postez ça sur les réseaux et on ne peut pas lire l'article parce qu'il faut être abonné. Et 99% des gens ne sont pas abonnés au Monde sur Twitter. Et donc, je leur ai dit, c'est journalistiquement, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Bon, je réfléchirai du coup à deux fois avant de donner une interview. Moi-même qui suis journaliste et qui adore mon métier et défend beaucoup mes confrères. Mais la prochaine fois que je le ferai, je dirai, par contre, je veux bien que vous me soumettiez le titre avant, parce que j'ai été trop déçu la dernière fois. Voilà ! Petit coup de gueule de ce matin. Frandet, merci pour le 4e mois d'abonnement. Alors, c'est un coup de gueule et c'est aussi une façon de vous dire aussi comment fonctionne l'écriture d'un article et pourquoi, et pour rebondir sur l'IB, bah là, par exemple, les gens qui ont fait le dossier sur, la mort du mangaka, du papa de Dragon Ball, en fait, les gens qui ont écrit l'article, ce ne sont pas les gens qui ont fait le titre. C'est comme ça, surtout à Libération, où il y a une science du titre, il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus. Enfin, c'est vraiment l'IB, c'est les rois du jeu de mots, du très beau titre, de la très belle une. Et clairement, c'est très rare que ce soit celui qui a fait l'article qui fait le titre. C'est vraiment séparé. Voilà. Et en général, ben, c'est super. Et là, c'était raté. Voilà. Donc, il fallait bien dissocier le titre qui n'était pas terrible, du dossier qui était super. Hop. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'un coup de gueule, c'est aussi pour vous dire comment fonctionne une rédaction, quoi. Et à l'inverse, parfois, le titre est super et l'article, il est naze. Un homme lent. Merci pour le 14e mois. Frandet, merci pour le 4e mois à nouveau. Majestic Games, pardon, je n'ai pas vu les 5 abonnements à la commu et je te remercie de ce soutien. A67, merci pour le 9e mois. Vous êtes formidable. Merci Corlam pour le 4e mois d'abonnement. Qu'est-ce que le Samuel des années 2000 penserait du Samuel 2024? Il serait très surpris, c'est acquis 97, et super fier. Sa crainte n'a pas un droit de regard avant publication? Minx, non. Parce qu'en fait, moi je fais confiance à mes confrères. C'est-à-dire qu'un journaliste qui demanderait à un autre journaliste de relire l'article, ce que les hommes politiques aiment beaucoup demander et n'obtiennent, je l'espère, pas souvent, avant publication... non, en fait, moi je fais confiance à mes confrères et mes consoeurs qui dans leur immense majorité font vachement bien leur travail et donc je ne demande pas à relire l'article, je fais confiance, je dis je vous ai parlé, j'ai ouvert mon cœur, j'ai été franc, maintenant bah, j'espère que l'article va ressembler à ce que je vous ai dit. Donc je ne demande pas à relire, jamais, parce que ça s'appelle, c'est plus du journalisme, c'est de la communication, c'est-à-dire que le journaliste qui t'interview, il a le droit de comprendre, d'interpréter ce que tu lui dis avec sa sensibilité. J'ai un coup de fil de quelqu'un d'important. Ça va être une erreur. Ses valeurs, d'important pour moi, ses valeurs, voilà. Donc il a droit aussi voilà, de faire son travail, quoi. Et en fait, il n'est pas là pour transcrire un communiqué... que lui dicterait un homme politique, un chef d'entreprise, un confrère. Oh, tiens, un petit message. Ouais, oui, attends, je vais le dire dans un instant, mais je voudrais finir ça d'abord. Un confrère, ça s'appelle de la com, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle de la com, quoi. Le journaliste, il n'est pas là pour retranscrire, quoi, les coups de communication des autres, quoi. Il a aussi sa grille de lecture pour interpréter, parfois justement tirer le séparer le vrai du faux. Voilà, c'est aussi un travail de journaliste, ça. Donc, moi, je ne demande jamais à relire une interview que je donne. Voilà. Et parfois, vous avez des personnes interviewées qui des artistes, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, par exemple, qui demandent à relire. Et là, on est plus dans un truc de communication. Et normalement, le journaliste doit refuser. Ben, hein? Alors, qu'est-ce que me dit mon... Personne d'important. Quoi? Je connais pas. Ah oui. Ah ok, c'est trop mignon, je connaissais pas le... Je viens de comprendre l'expression. Il y a donc quelqu'un qui est important pour moi qui vient de m'appeler, mais 2 secondes. Et je vois un SMS de la même personne qui me dit « pocket call, pocket call ».« Pocket call », qu'est-ce que c'est un call? Est-ce que c'est un pocket call? Est-ce que c'est un coup de fil important pour parler de pocket? Est-ce que c'est un dossier important? Pocket call, c'est le téléphone qui appelle tout seul dans la poche. Pocket call, la classe. Je ne connaissais pas l'expression, trop bien. Jeff, comment vas-tu? Jeff, Edmond, mieux, merci beaucoup pour le 28e mois. Tout petit vilain, merci pour le 3e mois. Corlam, merci pour le 4e mois, encore. Pocket call, c'est pas mal, hein? Trop classe, trop classe. Bon, pardon, assez parlé de moi. Parlons de vous, donnez-moi un petit peu de vos nouvelles. Et puis, on lance le sommaire de cette revue de presse pour vous dire ce qu'il y a dans les journaux ce matin. C'est pas le dossier Phuket, hein? C'est pas Phuket en Thaïlande. C'est Pocket. Pocket call. Alexandra sera en live aujourd'hui à 17h. Alexandra, qui est une amie à nous, qu'on aime beaucoup ici. Salut Alexandra. Ça va bien vous? Gwen, ça va? Je connaissais le butt call, dit MMG. N'allez pas voir sur Google, à mon avis, ce truc. Il n'y a pas d'infos sur Josiane Balasco. Gatmax, pourquoi? Il y a des inquiétudes sur sa santé, éventuellement? Pas au courant. L'entraînement pour le marathon, Rulcano, de le marathon de Paris, donc dans 3 semaines, se passe très bien. C'est-à-dire que je ne fais rien. Je n'ai pas couru la semaine dernière pour m'imposer du semi-marathon de Paris parce que j'avais du boulot. Je devais reprendre comme un fou ce week-end, je n'ai rien fait parce que j'avais trop de trucs à faire. Je devais reprendre comme un fou hier, j'ai rien fait, j'avais trop de trucs à faire. J'avais prévu de reprendre à fond aujourd'hui, j'ai calé plein de rendez-vous. Je vais arriver au marathon de Paris, je vais être en pleine forme, super reposé. Voilà. Je vais m'écrouler au bout de 10 km, mais je vais être très frais pour les 10 premiers kilomètres. Ça se passe très bien, la préparation du marathon de Paris. Merci, Mister Bolus. Bon, ça va, vous? Oh, merci, Gwen, c'est gentil. Je suis en manque d'actu, la Condamine. Ça tombe bien, on va combler ça. Il va falloir mettre un tapis de course dans le studio, me dit SDF. J'y ai pensé. Hein. Non, trop de trucs à faire, c'est pas jouer à Valo seulement. Hein. Je fais plein, vous vous rendez pas compte, hein, je fais plein de trucs en vrai à côté. Je t'adore Samuel, mais monte ton crosshair, Steven, ça vient, le crosshair qui monte, ça vient. Oh, c'est mignon, est-ce qu'on peut envoyer plein d'amour à Cassie Summer qui nous dit dans le chat, nouvelle sur Twitch, pour le moment j'y comprends pas grand chose, c'est normal, mais je vous ai trouvé, j'en suis très contente. Cassie Summer Twitch, c'est un endroit incroyable où n'importe qui avec très peu de matos peut créer une chaîne pour partager ses passions, pour... l'actualité, pour le jeu vidéo, bien sûr, sur Twitch, il y a beaucoup de jeux vidéo, mais aussi sur la cuisine, sur l'art, sur les échecs, sur le sport, que sais-je, quoi, voilà. Un PC, une petite webcam, un micro et let's go, quoi, voilà, c'est tout simple. Et après, toi, sur la page d'accueil, bah, tu peux faire, t'es un moteur de recherche, tu peux trouver, comme sur Google, tu peux faire un cri pour trouver des contenus, voilà, ou te balader un peu aux arts, ou chercher quelqu'un en particulier. C'est tout simple, en fait, mais c'est top. Donc là, tu as l'écran et puis à droite, tu as le chat, comme tu le vois, où tu peux écrire tout ce que tu veux, enfin tout ce que tu veux, dans les limites de la légalité et de la correction, bien sûr. Il y a Caradoc qui dit « J'ai toujours rien compris, après plusieurs années, c'est faux, je sais que tu comprends très bien tout ça. » Non, c'est pas une question idiote, Décadragme. Je n'ai pas prévu à ce jour de nouveaux streams dans des musées, mais me connaissant, ça arrivera un jour. Oui, Poum, très peu de matos, c'est vrai que c'était surtout au début, où je streamais avec un PC portable, une petite webcam et mon petit micro. Bon, depuis, j'ai un peu acheté du matos, c'est vrai. C'est vrai, c'est ce que m'a dit mon comptable hier soir, d'ailleurs. Il m'a dit, ah bah, non, vous avez vu ça, en ce moment, ça clique, hein, ça stream. Hein. Ma comptable, c'est génial, c'est une mère de famille et tout. Il m'a dit, bah, donc, monsieur Étienne, je vois vos clips sur TikTok. Hein. Je vois vos clips sur TikTok, Valorant, ça y va, hein. La conversation lunaire avec la comptable hier soir à 18h30, 19h. Monsieur Étienne, je vois vos clips sur TikTok, Valorant, ça y va, hein? Ouais. Parce que à la maison, moi j'ai deux fils et puis mon mari, alors eux ils sont plutôt Fortnite, mais on en parle beaucoup, hein.
Ok.
Donc je dis, vous avez vu, hein, ça bosse en ce moment. Il me dit, oui. Enfin, j'ai vu que vous aviez acheté beaucoup de matériel quand même. La comptable. Je dis, bah oui, il a fallu investir, les micros HF, la régie son pour Joe, les PC, du mobilier, le petit studio, tout ça. Je dis, bah oui, j'ai vu. Ok. Et alors, j'ai mes confrères qui me disent, mais alors il achète des jeux vidéo, là, c'est du perso, ça. C'est une vraie discussion, hein, hier soir. C'est du perso. Il achète des jeux vidéo sur le compte de sa société, c'est du perso, c'est de l'abus de biens sociaux, ça. Et alors, la comptable adorable, elle dit, mais non, c'est son boulot, c'est son travail. Oh, c'était top. Ouais, trop gentil, la dame, trop gentil. Trop mignon. C'était trop marrant. Monsieur Samuel, votre crosshair, alors elle a pu me dire, ça aurait été incroyable, ça. Alors, je sais pas si elle est sub, mais voilà, c'était mignon. Voilà. Donc bref, elle m'a dit que mon bilan serait pas si top que ça, j'ai trop acheté de matos. Parce que du coup, tu as une société uniquement pour Twitch, bah, t'es obligé en fait de créer une micro-entreprise, quoi. L'argent de Twitch, il va pas dans ta poche, c'est interdit, ça. Tu peux, quand t'es streamer, quel que soit, dès que tu reçois des subs, tu peux pas mettre les subs dans ta poche. C'est interdit, c'est illégal. C'est un chiffre d'affaires, en fait, même s'il est petit. Il faut que ça aille dans un cadre juridique, quoi, dans une société, quoi. Après, il faut payer des impôts, il faut payer des charges, tout ça. C'est pas, le sub, il va pas dans ta poche. Ça, c'est interdit, ça. Donc, tout le monde, en fait. Donc, t'as une société, donc tu rentres les subs que te donne Twitch, après qu'ils ont pris leur petite part, sur le compte de la société, et puis après, tu déclares ça, et puis t'as de l'impôt sur les sociétés, les charges sociales, voilà, puis après, tu vois ce qui te reste. Ah ouais, tu mets pas ça dans ta poche. Hein. Bon, hey, on fait un petit... Détroit Become Human va reprendre des beaux. Tu as combien d'employés? Ben, moi. Joe travaille avec moi, mais je ne parlerai jamais de Joe comme d'un employé. Joe n'est pas employé. C'est un pote qui est un indépendant et qui fait plein de choses pour moi, évidemment, pour lequel je le paye, quoi. Joe a aussi une société et il me facture. Mais alors, je ne le considérerai jamais comme un employé. C'est un pote, c'est mon égal, c'est mon frérot. Et voilà, quoi. C'est même pas un nom, même pas collaborateur, ça va pas. C'est pour moi, c'est on est kiff bourrico, quoi. Voilà. Et pareil pour Pépin, qui fait un peu de choses en graphisme pour moi. Ouais, elle fait plein de choses pour plein de gens. Et elle me fait les visuels, elle me fait plein de choses sur cette chaîne, même fonctionnement. Même chose pour Lucie pour le montage sur TikTok. Même chose pour Mathieu, qui gère ma chaîne YouTube. Donc, ça, pour moi, aujourd'hui, ce sont des amis, ce sont des gens que j'aime, quoi. Voilà, mais c'est. Et qui me font des prestats. Voilà, et que je paye, bien sûr, mais c'est pas mes collaborateurs et encore moins mes employés, quoi. Ouais, je dirais partenaire, Benoît, j'aime bien. Ouais, partenaire. Ah, l'histoire de Valo, il faudra qu'on la regarde, ouais. Le truc sur YouTube, la vidéo, ouais. Ouais, Julo, t'as la ref. Port Vénox, je vais aller voir ton historique, parce que je n'aime pas du tout le mot que tu viens d'écrire. Il est très maladroit. Hop, et t'as gagné. Alors, Pork Venox vient de gagner un crible de son historique. Parfois, un de vos propos peut être maladroit. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Voilà. Et du coup, ben, je clique, comme tous les streamers, je clique sur ton historique. Et je vais remonter dans l'historique. Et puis, ça se trouve, l'historique est super cool et c'est juste un mot maladroit. T'as voulu faire d'humour, mais t'as pas mis le petit clin d'œil qui pouvait montrer que c'était vraiment du second degré. Et je vois que t'as un historique qui est tout propre, qui est tout gentil, en fait. Voilà. Mais en fait, au premier degré, sans le petit clin d'œil, ben, tu vois d'ailleurs... Sans le petit clin d'œil qu'aurait accompagné, ben en fait, on peut se poser des questions, quoi. Voilà. Alors que t'as un historique qui est super clean, quoi. Mais le mot, il était affreux, le mot que t'as utilisé, là. Et comme t'as pas mis de petit clin d'œil, ben en fait, le second degré était pas évident, quoi. Donc, manifestement, c'est de la vanne. N'oublie pas le petit kappa, hein. Parce que le mot est vraiment affreux. Eh bien, Bon Ref me dit que la fameuse vidéo sur l'histoire de Valorant, elle est géniale. On va prendre le. Je suis un mauvais troll. Je suis sûr que tu n'es pas un mauvais troll, Pork Venox. Guinman FR, merci. Lilou Renez, merci pour les 5 abonnements que tu viens d'offrir à la commu. Azan01, merci pour l'abonnement offert à Framboise. Et je vous propose un petit sommaire. Est-ce que vous êtes OK pour un petit sommaire? Sachant que ce soir, on se retrouve. Ah oui, attendez! Sachant que ce soir, on se retrouve pour. Donc, Duvalo, mais tard. Comme le steak. Parce que le mardi soir, je dîne avec mon amoureuse. Tous les mardis soirs, tous les deux. On prend un petit moment pour se faire un petit resto de quartier, voilà, pour se raconter un peu nos histoires. On adore nos enfants, mais c'est notre petit moment à nous, tous les deux, un petit dîner tous les mardis. Donc ce soir, je vais lancer tard. Et puis, je voulais aussi vous dire que sur la chaîne YouTube de Papy Sam, Mathieu avait dû poster, je pense, hier, j'en suis même sûr, le replay du dernier Samplay. Hein, on a reçu Néo, ouais, c'est là. Le patron de la Team Vitality, hein, pour parler d'e-sport notamment. Voilà, donc c'est là. On n'a pas joué beaucoup. On devait jouer à Gears 5 et surtout on a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé d'e-sport et c'était passionnant. Si vous vous intéressez un petit peu à l'e-sport, comment fonctionne l'e-sport, quels sont les jeux les plus importants sur l'e-sport. Moi j'avais énormément de questions sur cet univers et Fabien m'a apporté énormément de réponses. On laisse passer la pub Google là, hein, et n'hésitez pas à aller voir si c'est en replay comme tous mes streams. Oh là là, les pubs, c'est joli avec les cerisiers en fleurs. Et oh là, bon c'est, oh, ouais, c'est, ouais, ok. Ok, voilà, c'était un peu... Avec Twitch, toujours peur. Donc, tous mes streams sont en replay sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est Néo, c'est Fabien, qui a eu la gentillesse de trouver un petit peu de temps dans son emploi du temps de fou pour nous parler notamment d'e-sport. Voilà. Donc ça, c'est en replay. Et puis, dernière chose juste pour moi, pour rigoler. Ouais, j'en étais sûr. Ouais, mon petit tweet de ce matin, il a bien marché, là. Celui où j'interpelle... Billy et Arthur, c'est cool. Bon, on fait un petit sommaire alors. Merci Grenadine pour les bits. Merci Majestic Games pour l'abonnement offert à la commu. Allez. Salut Serwal. Attendez, moi, il faut que je regarde juste l'heure à laquelle j'ai calé mon taxi pour un rendez-vous super important, midi 20. Donc, c'est-à-dire qu'à midi, il faut que je commence à bouger, quoi. Midi. Vers midi 5, on fera arrête, quoi. Voilà. Mais ça va tenir en 2 heures, tout ce qu'on a là. Ça va tenir. On y va ? Let's go. Merci Pelpus pour le prime. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin ? Plein de belles choses. Hop, je vous montre. D'abord, on va parler de l'Ukraine. Voilà, c'est la une du Parisien ce matin. Pourquoi ? Parce que le Parlement français va... se prononcer aujourd'hui sur l'Ukraine, enfin précisément sur l'accord bilatéral passé entre la France et l'Ukraine. L'accord passé avec Kiev par le président de la République, un vote consultatif observé à la loupe avant les européennes. Pour l'Ukraine, l'heure de vérité à l'Assemblée. Donc, pourquoi je vous en parle ? Parce que ça semble assez important d'après le Parisien. Libération, on parle également, on va le voir dans un instant. C'est une première, en fait, depuis le début de l'invasion russe. Donc, on va rappeler que cette guerre a commencé il y a plus de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Bravo à ceux qui sont dans la salle de sport, là, qui nous regardent. C'est une première depuis le début de l'invasion russe. Le président de la République a demandé un débat avec vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'initiative vise aussi à contraindre les oppositions à prendre position sur la guerre en Ukraine. Par exemple, du côté de la majorité, on reproche la position du Rassemblement national sur ça. Le Rassemblement national qui est soupçonné slash accusé, notamment par ses prises de position dans le passé, d'être pro-russe, en tout cas avec un soutien trop faible, trop timide, trop tiède à l'Ukraine. Et certains dans le chat me disent que le RN a annoncé ce matin qu'ils allaient s'abstenir sur ce vote. Voilà, donc on va se pencher là-dessus. On le fera dans Le Parisien, on le fera également dans Libération, la campagne d'Ukraine, puisque derrière ce que disent les analystes ce matin, c'est que pourquoi Diesel a été banni par Nightbot ? Stop spamming caps. Diesel, t'as été banni 6 secondes par Nightbot. C'est super bizarre. Parce que ce qu'explique Libération, c'est qu'en fait, il y a donc un vrai truc de fond sur comment chaque parti doit, selon la majorité, se positionner sur l'Ukraine. Mais il y a aussi, nous dit Libé, une démarche politique pour que pour montrer aux électeurs quelles sont les positions claires de certains partis, le RN, mais aussi certains partis de gauche sur la question ukrainienne, pour tenter de peser sur le vote des électeurs aux prochaines élections européennes. Hein. D'où ce titre, la campagne d'Ukraine. Emmanuel Macron veut faire du conflit un sujet phare de l'élection de juin, manière de piéger à la fois le RN et LFI. Le débat sur la stratégie d'aide à Kiev ce mardi à l'Assemblée sera un premier test. Voilà. Port-Vénox demande, est-ce que la démarche n'est pas avant tout politique? C'est la question qu'on se posera. Bonne question. C'est quoi ce zoom là? C'est la poubelle ça. C'est une erreur. Tchouk, sur l'édito. L'édito, il est là. L'édito d'Alexandra Schwarzbrod, qui est quelqu'un qui écrit de très bons éditoriaux dans Libération. Est-ce que bientôt sur les routes de France, sommaire toujours, on va avoir des méga camions? Des camions, mais longs quoi. Des camions pouvant faire jusqu'à 25 mètres de long. Voilà. 60 tonnes. C'est des camions qui sont interdits en France. Voilà. Mais il y a une directive européenne qui veut autoriser ces camions de marchandises. Voilà. Ces méga camions. Voilà. Alors, que sont ces méga camions? Quels sont les arguments pour les faire rouler? Voilà. Certains partisans disent « Ah bah si, c'est plus écologique, parce que du coup, s'ils sont plus gros, tu vas en mettre moins sur les routes. Bon. » Et du côté des écologistes, on dit ben, « Non, c'est pas ça qu'il faut faire. » Bon, on verra le débat. Ouais, soit 25 mètres de long, ouais. C'est, ouais, 25 mètres. C'est long, hein. On va se pencher là-dessus. Dans le Parisien. Bagnole, enfin, transport toujours, bagnole, et puis aussi moto et poids lourd d'ailleurs. Vous savez, la petite carte verte d'assurance, là, le petit truc qu'on met sur le pare-brise, là, pour prouver qu'on a bien pris son assurance, eh bien, il n'y a plus besoin, ça disparaît. Au 1er avril, vous n'aurez plus besoin de mettre le petit papillon vert, là, le papillon de l'assurance automobile, sur le pare-brise du véhicule. Voilà. Pourquoi? Vous verrez. Voilà. Attention, il faut toujours s'assurer. Mais il n'y a plus besoin de ça, parce qu'en fait, les forces de l'ordre vont pouvoir, en cas de contrôle, interroger un fichier où tout le monde, normalement, sera recensé. Quoi. Voilà. Donc, ça va éviter d'imprimer plein de papiers, d'envoyer plein de lettres. Ça va permettre, pour le coup, c'est un peu plus écologique. Et ça va faire des économies aux compagnies d'assurance. Donc, on va se pencher là-dessus. Ouais. C'est une blague, j'en suis sûr. Ah, parce que c'est le 1er avril? Non. Non, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Mon épouse est née le 1er avril et je peux te dire que c'est pas une blague. Voilà. Tout ce qui se passe un 1er avril n'est pas une blague. Voilà. Mon épouse est née un 1er avril et c'est quand même une des nouvelles les plus importantes dans l'histoire de l'humanité, que mon épouse soit née et qu'elle soit là pour illuminer de sa gentillesse, de sa douceur, de sa bonté d'âme, de sa compréhension, le monde, si tu veux. Donc le 1er avril, par exemple, c'est une date dans l'histoire de l'humanité, je le dis de façon tout à fait neutre, quoi. Hein, qui est essentiel, qui est capital, par exemple. Ça c'est un bien aussi. La polémique Aya Nakamura, pourquoi? Parce que a été évoqué, je ne sais pas si vous avez vu, l'idée que Aya Nakamura pourrait chanter aux Jeux Olympiques de Paris. Voilà. Et là vous avez une levée de bouclier de qui? C'était par là, mais c'était bien par là même, c'était très très par là, du côté de l'extrême droite, en disant « Ouais, quoi, Nakamura, elle va chanter au JO, qu'est-ce que c'est que ça ?» Voilà, des faf, voilà, exactement, trapiste. Et donc, Libération s'est mis en colère ce matin, et il y a Bala Fofana, qui est journaliste au service Mode de Vie, qui prend la défense d'Aya Nakamura, et l'article est bien écrit. Alors, si vous avez un œil attentif, et je sais que vous avez l'œil vif, hein, comme votre intelligence, eh bien, vous noterez que j'ai mis du jaune sur tous les mots de cet article. Explication. Parce que je sais ce que vont dire les petits malins tout à l'heure, je connais vos blagues. Mais alors, si tu mets du jaune sur ton article, c'est pas la peine de mettre du jaune. Si, tu comprends? C'est... Hein? Bon. Comment ça marche? Quand je commence à lire un article, je mets du jaune sur tout ce qui me semble important. Mais au début de l'article, je ne sais pas que tout l'article va être important. Je ne sais pas au début de l'article que tout l'article, je vais le trouver cool. Voilà. Et donc, parfois... Il y en a qui s'est dit, mais comment tu connais ma voix, Simon? Je suis très fort. Et donc, parfois, il m'arrive de mettre en jaune tout l'article parce que du début à la fin, je le trouve clair, intéressant et sympa. C'est ce qui s'est passé là-dessus. Donc, tout est jaune. Ah, petite polémique là. Et inquiétude aussi. Vous savez, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de l'absence et de la santé de Kate Middleton, hein, la princesse de Galles au Royaume-Uni, parce que ouais, elle ne s'est pas montrée en public depuis un bon moment. Il y a beaucoup de rumeurs sur sa santé. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi, parce qu'elle est assez appréciée, je crois, du peuple britannique. Et puis, du coup, il y a une photo qui est sortie de la princesse de Galles avec ses enfants. Bon, ok, jusqu'ici tout va bien. Bah, elle est en pleine forme, formidable. Sauf qu'en fait, très vite, de gros médias, notamment des agences de presse, ont dit... alors, on va arrêter de la publier, cette photo, parce qu'en fait, elle est totalement truquée. Elle est, y a plein de retouches de partout. Donc, elle est bizarre. Et donc, on ne va pas la diffuser. Oui, bizarre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette photo a été retouchée slash truquée? Est-ce que... en fait, le vrai truc, c'est pas on s'en fout que la photo est retouchée, mais est-ce que du coup, Kate Middleton est malade? Est-ce qu'elle a un truc de grave? Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est plus l'inquiétude autour d'une personne qui se trouve être la princesse de Galles, voilà, que l'histoire d'une photo retouchée et d'une manche un peu bizarre et tout. Voilà. Narco de la grosse info, ça. Ben, Narco, si tu connaissais un petit peu la question de la famille royale britannique en Grande-Bretagne et le rapport que les Britanniques ont à la famille royale et la médiatisation planétaire des épisodes de vie de cette famille, tu te rendrais compte que oui, le fait que en Grande-Bretagne, on se demande si Kate Middleton n'est pas super malade, bah en fait, oui, c'est une info. C'est une info. C'est une petite info, mais c'est une info. Voilà. Puis après, ça pose aussi la question de la désinformation. Aussi, parce que là, nous avons une photo émise officielle par Buckingham Palace, par la famille royale britannique. Donc, on est censé faire confiance à cette information, à cette photo. Et en fait, il y a manipulation. Manifestement, il y a mensonge. Donc, on est aussi sûr comment faire confiance, à qui doit-on faire confiance et comment on essaye de nous, parfois, de nous mentir, de nous manipuler. Donc, c'est aussi une réflexion sur l'information. Or, il est intéressant de voir que ce sont des internautes qui ont décelé les problèmes sur la photo et ensuite des grands médias qui ont dit « Nous ne diffusons pas cette photo parce qu'elle pose problème. » Voilà. Donc, il y a aussi une réflexion là-dessus, quoi. Après, comme le dit cas particulier, il y a eu un autre communiqué de la princesse de Galles qu'on n'a toujours pas vu, qui ne parle toujours pas, mais qui a fait un communiqué écrit en disant « En fait, c'est moi, vous savez, moi aussi, je suis comme tout le monde, je retouche un peu mes photos pour qu'elles soient plus jolies et tout. » Le truc est bizarre. Ça ne va pas parler aux plus jeunes d'entre vous, mais voilà, moi, ça me parle. J'ai vu plusieurs articles depuis plusieurs jours sur le sujet, et puis je n'étais pas convaincu par les articles. Et là, dans l'Humanité, il y a il y a un super article sur un groupe punk français mythique qui s'appelle le Berrurier Noir, les Berrus pour les intimes, voilà, qui a marqué l'histoire de la musique française et notamment la musique Salut à toi. Bah, je vois que vous avez la ref, bravo MMG. Porcherie, bien sûr, le Dagda, je vois que voilà, certains connaissent. Et ça, c'est un groupe super important dans l'histoire de la musique française, ouais, Berrurier Noir, Berru. On est sur le punk français, début des années 80, voilà, avec des titres mythiques comme « Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple Khmer, salut à toi, petit indien, salut à toi, l'arménien, etc. » Et un autre titre mythique qui s'appelle « Porcherie », qui dit notamment un truc comme « La jeunesse emmerde le FN » à l'époque, voilà. Il y a Bon Ref qui dit de nos jours punk est une insulte. Alors pas dans ma voix. Moi dans ma bouche à moi, punk est un joli mot. Moi j'aime bien ce mot. Voilà. Et donc on a une exposition à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, sur des archives qui ont été cédées par des membres de ce groupe mythique. Ça nous permet de revenir, notamment pour les plus jeunes, sur ce qui s'est passé autour du mouvement punk musical France au début des années 80, notamment des Berrus. Donc on va apprendre plein de choses. C'est super intéressant. Voilà. Punk à chien, c'est peut-être une insulte, me dit Étienne, je sais pas. Même punk à chien, pour moi, c'est pas... Mon groupe punk préféré, oh, je connais pas mille, hein, mais à l'époque, j'écoutais les Berrus, j'écoutais Gogol Premier, La Horde, ouais, un truc comme ça, quoi. Ouais, mais c'était. Bon, j'écoute un peu de tout, quoi. Hop, on se penchera là-dessus. Et puis, voilà, alors il n'est pas disponible en France, mais certains journalistes y ont eu accès en le louant. Voilà, il est, pour l'instant, il ne se vend qu'aux États-Unis, mais il y a des sociétés qui le louent en France. Le fameux, comme on dit, Vision Pro ou Vision Pro. Vous le dites à la française ou à l'américaine, le casque d'Apple, là. On dit, vous dites Vision Pro à Google Premier, vous vous rappelez, ce voyageur Vision. Ah bah, vous n'êtes pas d'accord. À l'anglaise, à la française. À la française, à l'anglaise. À l'américaine. Oh, bah merde, alors. Remarque, tu dis pas if, tu dis pas iPhone, tu dis iPhone. Ah, ok, ok, ok. Ok, alors Vision Pro. À Kirghiz, non, non, Rodelix, j'arrive pas à Kirghiz. Il y a des voyelles que j'arrive pas à faire. Bon, on dit comme on veut. Ok. Alors, les journalistes du Figaro l'ont essayé. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va servir à quelque chose? C'est quoi ce prix? Donc, en dollars, annoncé en euros. Ah, ils l'ont mis en euros. 3499 euros. Alors, on ne sait pas si c'est bien. Enfin, même si le Figaro trouve que c'est cool. On ne sait pas si ça va servir à quelque chose, mais un truc qu'on sait, c'est que ça coûte 3499 euros. Bon! Voilà, je vais éviter de l'acheter parce qu'après ma comptable va me dire « Ah, dis donc, monsieur Étienne, ça va aller les dépenses-là ?» Merci beaucoup, you rock you pour les beats. Voilà, « Punk is not dead, but bien red ». Gadbag971, merci pour le soutien. Cathy Préfleury, merci pour le 10e mois. Ibès, merci pour le 8e mois. Anis1233, merci beaucoup pour le 5e mois. The Voyageur, je t'ai remercié tout à l'heure, je crois pas, pour le 27e mois. Ouais. $3,500, ouais. Ouais, en frais de société, non. Non, non. Ah, bah là, par exemple, moi, non. Bon, j'en ai pas l'utilité. Hein. Mais j'en aurais l'utilité, je l'achèterais, hein, peut-être, mais là, j'en ai pas l'utilité. Puis c'est cher. Hein. Ah, 3500. Il y a Nosferro qui dit à 3500 euros, ça doit pas être cool, ça doit être génial, si je puis me permettre. Je préfère mettre ça en skin Valo, hein. Ouais. Est-ce qu'on peut faire du Valo dedans? Ah, putain, du Valo, ouais, c'est pas mal. À mon avis, il y a un truc de se faire mal au cervical, parce que le truc, je pense, c'est assez lourd, quoi. Il y a 6 mois, ça n'existait pas, tout le monde vivait sans, me dit Gimlix. Maintenant, tout le monde en veut. Je ne suis pas sûr que tout le monde en veuille, en fait. Non, je ne suis pas sûr, en fait, à ce jour. Et puis, dans quelques années, on pourra faire peut-être plein de trucs avec et ça coûtera moins cher. Léo Duff a fait une très belle vidéo dessus, me dit Skiros. Samuel, ça fait combien de temps que tu streams maintenant? 3 ans et demi à Chitori. Pas tous les jours, mais presque. Ouais. Ouais, c'est assez lourd, il paraît, ouais. Je trouve ça un peu inutile, je vous lis, hein, je trouve ça un peu inutile. Je le mets dans la catégorie gadget. C'est ça, le commerce rend désirable un truc totalement inutile, nous dit Guardian Teal. Pas trop cher et inutile. Tu dors quand? La nuit, Toé, pas longtemps, mais un peu quand même, comme tout le monde. Quelqu'un peut facilement l'arracher dans le métro ou non, me dit Lornpin Ozaz. Alors, je ne veux pas. C'est pas un truc que j'utilise dans le métro parisien. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas, je ne me vois pas utiliser ça dans le métro parisien. Voilà. Parisien. Dans le métro même, tout court. Voilà. Enima, entre 3 et 5 heures. Par jour. Pas par semaine. Ouais, c'est plutôt pour utiliser chez soi. Ouais. Pour travailler en tant que développeur, ça peut être vraiment bien. Et c'est clairement pensé pour ça, me dit Beto Statuen. On se penchera là-dessus, quoi. On se penchera là-dessus. Hop. Et voilà. Voilà les thèmes de ce matin. Pas mal, hein? Vous en pensez quoi? C'est pas. Il y a une belle matière quand même.
Ouh! J'ai un peu de forme.
On y go? Est-ce que j'ai votre go pour la revue de presse? Moi, je commence pas. J'ai un yes baby, j'ai un go. Ok, c'est parti. fais une sieste ce soir, l'objectif du faire 3. Ah oui, bah oui, mais hey, la revue de presse, c'est important aussi. On y va. Qui soutient l'Ukraine? Qui soutient l'Ukraine? Quel positionnement, enfin, clair, ont les partis français sur la guerre en Ukraine? Le Parlement va donc se prononcer aujourd'hui, je crois que c'est cet après-midi, sur l'accord bilatéral passé avec Kiev par le président de la République. Un vote consultatif, qui n'engage, n'oblige à rien, observé à la loupe avant les Européens. Ah, peut-être que je vous mette la scène, merci beaucoup, Julo. Bim! Pour l'Ukraine, c'est donc l'heure de vérité à l'Assemblée. C'est une première, et ça c'est pour ça que je vous en parle ce matin, c'est une première depuis le début de la guerre en Ukraine, donc depuis 2 ans. Le président de la République a demandé un débat avec un vote à l'Assemblée nationale et puis aussi au Sénat. L'initiative vise aussi à contraindre les oppositions à prendre position. Ce mardi à 15h, donc c'est bien cet après-midi, les députés vont donc se prêter à un exercice qui est celui d'un débat suivi d'un vote, même si ce dernier n'est que consultatif, c'est-à-dire que c'est un vote qui n'oblige en rien le gouvernement, quel que soit le résultat. C'est une première depuis le début du conflit ukrainien, car les propos du chef de l'État n'excluant pas l'envoi de troupes en Ukraine, hein, qui ont tant fait parler, ces propos, ont suscité un fort émoi au sein de la classe politique. Le président Macron qui s'est expliqué de ses propos. Hein. Le président Macron qui a dit on ne peut pas exclure l'envoi de troupes en Ukraine. Ça a provoqué beaucoup de réactions en France et en Europe. Et le président Macron qui a déclaré, pour expliciter sa position, on ne peut pas se permettre de se fixer des limites face à un ennemi, la Russie, Poutine, qui ne s'en fixe aucune. C'est ce qu'il déclarait le 5 mars dernier. L'enjeu, on en parlera avec Libération de ça. L'enjeu de ce Parlement est aussi très politique, hein, il ne faut pas se le cacher. C'est un moment de vérité, déclare par exemple le patron des députés Renaissance, Sylvain Maillard, donc on est du côté de la majorité. La tentation est forte de contraindre les oppositions, et notamment le RN et la France Insoumise aussi, à assumer leur position sur l'Ukraine publiquement. Le débat au Parlement sera circonscrit au seul accord bilatéral conclu entre Paris et Kiev le 16 février dernier, accord qui inscrit notre soutien à l'Ukraine dans la durée pour faire échec à la guerre d'agression de la Russie, avait dit le communiqué, et prévoit jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. Question, est-ce que le RN, est-ce que les Insoumis vont voter ces dispositions? Jusqu'au dernier moment, le RN maintient le suspense. Et vous m'avez dit dans le chat que le RN, et que info que je vais vérifier tout de suite, avait annoncé qu'ils allaient s'abstenir. RN, Ukraine, petit crible, Google Actu. Ouais, c'est annoncé. J'ai un article du Figaro ici. Débat sur l'Ukraine. Le Rassemblement National va donc s'abstenir. Voilà. Annonce Jordan Bardella. Nous nous abstiendrons sur ce texte à l'Assemblée, a annoncé Jordan Bardella sur France 2 ce mardi matin, donc dans Télématin, sans doute dans les 4 vérités, pointant des lignes rouges. S'il assure soutenir l'Ukraine, Jordan Bardella, le président du parti à la flamme, souhaite éviter l'escalade. Cette ligne d'équilibre serait brisée par le texte défendu par Gabriel Attal, d'après Bardella. Je cite Bardella, « La Russie est une puissance nucléaire. Je pense que l'escalade dans laquelle est engagé le président de la République est irresponsable, dangereuse », a-t-il dénoncé. Voilà. Donc ça, c'est la position du RN qui va s'abstenir sur ce soutien à l'Ukraine. C'est bien Marine Le Pen qui prendra la parole pour défendre la position des députés RN. Croyez savoir le Parisien, bon, du coup, ils sont un peu trompés puisque c'est Jordan Bardella qui a pris position. Du côté de la droite, je vous mets la scène, pardon. Du côté de la droite, que vont faire les députés LR? Si les députés LR ne devraient pas ménager le chef de l'État, ils voteront néanmoins en faveur de cet accord de soutien à la France, de la France à l'Ukraine, à commencer par le président du parti, Éric Ciotti. Ce débat devrait aussi montrer la désunion de la gauche sur le sujet, chez les insoumis qui sont très critiques vis-à-vis... des mots présidentiels, on penche plutôt pour un vote contre. Il ne nous est pas demandé de valider l'accord de sécurité de la France à l'Ukraine, mais de donner une caution symbolique de la représentation nationale au discours global porté par le président, qui a tenu des propos irresponsables, a estimé le député LFI Arnaud Le Gall. Un vote contre partagé par les communistes. Si la Russie de Poutine est dangereuse et menaçante, nous ne la ferons pas reculer par des menaces, affirme Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Toute guerre a une fin et se termine par des négociations. À l'inverse, le PS et les écologistes vont voter pour. À moins de 3 mois des élections européennes, puisqu'il y a, nous disent les journaux ce matin, quelques arrière-pensées politiques dans tout ça, à moins de 3 mois des européennes, ce débat et le vote seront observés de près, notamment par la majorité qui veut dénoncer les ambiguïtés du RN, hein, qui longtemps a été accusé d'être un parti pro-Russie, sinon pro-Poutine, vis-à-vis de la Russie, et le pacifisme de la soumission, je cite, des insoumis. Voilà, c'est ce que a dit Sylvain Maillard. Voilà. Chaque parti politique prend parti là-dessus, et le Parisien prend parti aussi. Le journal, un journal a le droit de prendre position, hein, un journal a le droit de donner son avis sur l'actualité. Du moment que c'est clairement dit, en disant, attention, là, ce ne sont plus que les faits, c'est notre avis. Voilà. Et ça s'appelle un éditorial. Ce petit mot à gauche, là, que vous voyez, édito, c'est quand un journal ou un journaliste dit, attendez, là, je vous donne mon avis. Ça n'est que mon avis. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Mais c'est comme une petite lumière rouge qui s'allume en disant, ce n'est pas juste les faits, c'est notre avis. Que pense le Parisien? Que pense Nicolas Charbonneau de tout ça? Eh bien, Nicolas Charbonneau dénonce l'esprit de Munich. Le pacifisme est une belle idéologie, dit Nicolas Charbonneau. Mais il a rarement fait plier l'adversaire. Il serait fou de se recroqueviller en pensant que l'on échappera au conflit quand l'ennemi se délecte de chaque signe de faiblesse. Aujourd'hui, l'esprit munichois, donc Munich, Daladier, 1938, un camp, les pays européens pensent éviter la guerre avec Hitler, hein, je résume le petit cours d'histoire qu'on a tous en tête, voilà, et sauver la paix, voilà, en se couchant devant Hitler à l'époque. Voilà. Et les gens qui n'étaient pas d'accord, je ne sais plus qui avait dit à l'époque, pauvre fou, quoi. Voilà. Je ne sais plus, il y avait une très belle phrase, c'est vous avez voulu la paix au prix du déshonneur, vous aurez le déshonneur et la guerre, ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Aujourd'hui, l'esprit munichois qui anime certains parlementaires est sidérant. Ainsi, l'exemple du RN et de LFI hostiles à l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. Manuel Bompard considérant par ailleurs que faire en sorte que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, c'est s'empêcher de fournir à la Russie des garanties de sécurité. Voilà une bien étrange analyse de la situation, une forme de trahison ou de faiblesse qui suggère la même chose, la capitulation et le défaitisme en bandoulière, comme viatique à déposer aux pieds du Kremlin. Alors, est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que être critique vis-à-vis de la position de Macron, c'est munichois, hein, en rapport avec Munich, comme en 1938? Pierre dit, c'est peut-être un raccourci quand même. Eh ben, tu n'es pas le seul à le dire, tu vas voir, Pierre. Voilà, c'est Churchill qui avait dit ça, merci Roméo. Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Merci Roméo, avec toi, avec cette citation, c'est beaucoup plus clair. Merci à toi. Libération, on parle aussi de ce matin de ça. La campagne d'Ukraine, c'est la une de Libé. Emmanuel Macron veut donc faire du conflit un sujet phare de l'élection de juin, l'élection européenne, manière de piéger pour Libé à la fois le RN et LFI. Le débat sur la stratégie d'aide à Kiev ce mardi sera un premier test de cette stratégie. Obliger les oppositions à se prononcer, à prendre position sur la guerre en Ukraine. Nils 275, merci pour l'abonnement offert à Watch Loot. Merci Gogo pour le soutien pour le sixième mois. You rock you, merci pour les beats. Les beats. Les beats. Juroskov, merci beaucoup pour le 26e mois. Obliger les oppositions à se prononcer sur l'aide à l'Ukraine à 3 mois des élections européennes. Placer ce thème... Ouais, je sais, les beats. Je suis con. Et j'ai fourché. Et placer ce thème au centre du début de campagne, c'est l'objectif recherché par Emmanuel Macron et son gouvernement en organisant, vous avez le droit de vous moquer, vous avez bien raison, ce mardi à l'Assemblée, un débat suivi d'un vote symbolique. Soit l'exécutif obtient un consensus, soit l'hémicycle se divise et la majorité ne se gênera pas pour accuser les opposants de faire le jeu de Poutine. Je vous interdis de clipper cet extrait. La séance s'annonce compliquée, les oppositions s'affolent d'un supposé bellicisme, l'envie de partir en guerre, du président depuis que celui-ci, le 26 février, a dit ne pas exclure l'envoi un jour de troupes en Ukraine. Et là, je fais une petite flèche, vous avez vu, qui nous renvoie à l'édito d'Alexandra Schwarzbrod, qui donne son avis là-dessus. Vous savez que le président Macron l'a dit, nous n'excluons pas, la France, l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. beaucoup de réactions politiques en disant « Quoi ? Tu vas envoyer des soldats français mourir sous le sol ukrainien ? Qu'est-ce que c'est que ce... C'est irresponsable ? Ça nous isole des autres pays européens ? Tu vas provoquer une guerre ? » Bon. Qu'est-ce que pense Alexandra Schwarzbrod de tout ça ? L'idée du chef de l'État n'était pas d'envoyer des jeunes Français se battre sur le terrain, mais plutôt de montrer à Poutine que l'Europe n'entendait pas se laisser faire, en laissant planer une sorte d'ambiguïté sur les forces qu'elle était prête à mettre en balance. C'est intéressant parce que Libération, c'est un journal de gauche qui est assez critique avec le président Macron, mais Alexandra Schwarzbrod dit « en vrai, bon, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'était plus des mots pour laisser une ambiguïté sur ce que, jusqu'où l'Europe était capable d'aller, un peu pour faire flipper Poutine. » Voilà. Alors, Alexandra Schwarzbrod dit « voilà ce qui a été tenté », mais en même temps, elle dit « bon, bah, c'était complètement raté ». Objectif raté, capacité de dissuasion zéro. Les Russes ont appris à cette occasion que les alliés européens de la France, à commencer par l'Allemagne, n'avaient aucune intention de se battre pour Kiev. Et que la France elle-même se déchirait sur le sujet. Voilà. Les sondages d'ailleurs montrent que les Français n'ont pas apprécié les propos « va-t-en-guerre » d'Emmanuel Macron. La plupart des partis politiques, eux, sont vent debout.
Ouh, je voulais prendre un café, moi.
Merci, Poulpiforce. Je vous lis. Hein. Je vous lis. Intéressant ce que dit Psycho Wolf, ayant de la famille en Roumanie, je vous assure que le discours de Macron là-bas est grandement apprécié. Ce que je trouve problématique dans cette histoire, me dit MMG, c'est qu'on met le RN au centre de l'arène et on laisse mener la politique française à la baguette, c'est leur donner le micro et les rendre encore plus populaires. Tu sais, en France, tout a été tenté par les opposants au FN hier et au RN aujourd'hui, pour lutter contre la montée de l'extrême droite en France, de les ignorer, ça n'a pas marché, de batailler contre, ça n'a pas marché. Force est de constater que depuis quelques élections, le candidat, la candidate de l'extrême droite est systématiquement au deuxième tour de la présidentielle en France, qu'un nombre croissant de Français votent pour ce parti-là, dont je ne suis pas sûr que ignorer Charter, ouais, quasiment tous les jours. Le RN, en fait, soit la solution. Voilà. D'abord parce qu'il est là. C'est une force politique qui ne cesse de devenir plus forte et qui séduit un nombre d'électeurs français de plus en plus nombreux. Et ça n'est pas mettre le RN au centre de l'arène que de constater que c'est un fait, du coup. Je suis pas sûr que l'ignorer soit la bonne solution. Ouais. Mais ça n'est que mon avis. Lisons la fin de l'article de Libé. La majorité ne compte pas s'embarrasser des réticences de ses opposants. S'abstenir ou voter contre la déclaration reviendrait à se ranger soit derrière Poutine, quand voter, ce serait soutenir Zelensky. Libération estime que c'est peu subtil. Merci MMG. Samedi à Lille, au meeting du camp présidentiel, Édouard Philippe a moqué ceux qui soutiennent Kiev à condition que ce soit ni trop cher, ni trop long, ni trop agressif avec Poutine. En ligne de mire, le RN jugé toujours aussi tiède, sinon complaisant avec Poutine. Le Premier ministre Gabriel Attal va ouvrir le débat parlementaire tout à l'heure cet après-midi, nous dit Libé, enfonçant le clou, jugeant que pour le RN, face à la Russie, toutes les mollesses, toutes les faiblesses sont bonnes. Les oppositions dénoncent une tentative d'instrumentaliser le conflit à des fins électorales. Honteux, indigne, pitoyable. S'insurge sur X, Twitter, le patron des LR, Ciotti. À l'Élysée, on se défend de tout calcul électoral. Arguant qu'alerter sur des perspectives géopolitiques aussi anxiogènes est tout sauf payant dans l'opposition. À l'Élysée, on dit, ce serait plus simple de dire comme Mélenchon ou Le Pen qu'on n'enverra jamais de troupes, mais le président parle de l'intérêt de la nation. Les partis de leurs intérêts électoraux assurent un conseiller qui s'inquiète d'un durcissement actuel de la Russie. La mort de l'opposant Alexei Navalny récemment, l'intensification des cyberattaques en France. Plusieurs ministères ont fait l'objet depuis dimanche, selon le gouvernement, d'attaques informatiques d'une intensité inédite. J'ai vu quelqu'un qui en parlait dans le chat tout à l'heure. Je vais me faire un café, mais je vous lis d'abord. Ah, Nightbot dit des bêtises. Merci. Je vais le reprogrammer. C'est moi qui ai oublié de corriger le bot. Nightbot, c'est parti. Nightbot, Nightbot. Nananana, Nightbot. Nananana, Nightbot. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Nightbot ? Il dit prochain stream lundi soir. Ah ben non, mardi soir. Mardi soir, stream Valorant, l'enjeu, il est où mon, il est où, voilà, alors hop, mardi soir, stream Valorant, l'enjeu, oh, marche pas, ah, chiant ce truc, dès que tu fais une faute de frappe, ça revient, il est où, lundi soir, hop. Enfin, en même temps, taper avec un clavier qui a 10 bandes de ton écran, un stream Valorant avec un enjeu. Bon, allez, on fait les choses bien, on prend son clavier, ça me sert à rien. Excusez-moi. Quand tu veux faire les choses pas correctement, eh bien, tu fais de la merde. Hop, mardi soir. Non mais c'est Nightbot qui a vraiment du caca, en fait, c'est pas moi. Voilà. Prochain stream. Mardi soir, stream Valorant avec un enjeu décisif pour l'histoire de l'humanité. Je vais tenter de passer FR3. Voilà. Nightbot est corrigé. Merci Kodama pour le soutien. Ah, on y est. Non, ça va aller, l'Ukraine, tout ça. Mais bon, ce soir, je vais faire 3, hein, moi. Voilà. Alors, je vous lis sur le RN. Cyril, j'adore voir les personnes âgées se débattre avec les nouvelles technologies. Cyril, je t'emmerde, en fait, Cyril. Cyril, je t'emmerde. Salut Étienne, est-ce que tu as parlé du fait que le RN ne veut plus être qualifié de parti d'extrême droite ? C'est Michel Bertrand qui en parle. J'ai vu ça ce matin. Et je crois que c'est le Conseil d'État qui a dit « Ben non, en fait, vous êtes toujours un parti d'extrême droite. » On va aller voir ça. RN. Vous avez raison d'en parler. Ouais, c'est ça. Hop, article du Monde. Hop. Voilà. Ben, c'est un débat qu'on a ici parfois. Est-ce que le RN est toujours un parti d'extrême droite ou pas ? Le Rassemblement national peut être rattaché à l'extrême droite, confirme le Conseil d'État. Le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella contestait l'emploi de cette qualification pour ses candidats aux élections sénatoriales de septembre, depuis toujours. Hein. Marine Le Pen, ça fait des années qu'elle dit « Ah, mais le FN n'est pas du tout un parti d'extrême droite. » Et ça continue, voilà. Et Marine Le Pen et le Conseil d'État dit ben non, en fait. Donc le Conseil d'État a rejeté une requête du RN qui contestait son rattachement à l'extrême droite dans la classification des candidatures au sénatorial de septembre. Ok. Alors qu'est-ce que dit le Conseil d'État pour motiver, justifier cette décision ? En rattachant la nuance politique RN au bloc de clivage extrême droite, La circulaire attaquée ne méconnaît pas le principe de sincérité du scrutin, que l'attribution d'une nuance politique différente de l'étiquette politique n'affecte pas et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Bon, je traduis. Vous êtes d'extrême droite. Elle ne méconnaît pas davantage, en tout état de cause, le principe d'égalité en procédant à un tel rattachement, en attribuant par exemple la nuance gauche au PCF ou encore à LFI. Voilà. Il voulait extrême gauche, peut-être, dit Lord Pinoza. Non, ben Marine Le Pen, elle dit mais on n'est pas du tout l'extrême droite. On est la droite. Bon. Ça, c'est un débat qu'on a eu beaucoup ici. Quelqu'un dit ça n'empêchera pas de, les gens de voter pour eux. Marine Le Pen pense que si justement on disait plus extrême droite pour qualifier le RN et le FN hier et le RN aujourd'hui, bah peut-être qu'effectivement ça pourrait motiver des gens qui hésitent aujourd'hui à prendre parti pour un parti qualifié d'extrême par certains et que ça pourrait booster le encore plus le vote RN, quoi. Je vous lis. Oui, c'est ce qu'on appelle la politique de dédiabolisation, Romy, exactement. Samuel, comment définit-on si un parti de gauche ou est de gauche ou de droite? Ben, en fait, ça dépend des périodes, des histoires. Voilà, et puis c'est, en fait, on demande, c'est les politologues qui nous proposent leur grille de lecture là-dessus, quoi. Pour ceux qui étaient en live avec nous, quand est-ce qu'on a joué à Valo la dernière fois? Samedi soir. Enfin, on a joué hier, mais samedi soir. Je me suis retrouvé hier soir, oui. Mais samedi soir, l'avant-dernière game, je jouais qu'avec des viewers et je me suis retrouvé avec un viewer dont le pseudo était Zemmour. Ouais. Hop, qui a pop comme ça dans ma team. Et j'étais un peu surpris, en fait. Voilà, mais bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Voilà. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Voilà. Les modos étaient un peu en sueur. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Voilà, le jeune homme s'en est expliqué. Voilà. Oui, non, mais c'est plutôt une blague et tout. Peut-être que tu peux prendre un pseudo plus neutre, quoi. Peut-être plus neutre. Voilà. Et en vrai, il a plutôt bien joué. Le viewer. Hein. Mm. Ouais. Oui, il y avait Noam aussi. Ouais, Mathieu. Ouais. Salut Mathieu. Ah ouais, est-ce que c'était un peu du troll? Est-ce que. Mm. J'aime bien la question de Kira Duken. Je la trouve pertinente. Il dit, j'y connais pas grand-chose, mais si le FN ne paie pas... Elle est bien ta question, je l'aime bien. Si le FN ne fait pas partie de l'extrême droite, qui en fait partie? Alors, c'est une question qui peut sembler naïve, et en fait, je la trouve très pertinente. Alors, certains vont dire, ah oui, bah, c'est Zemmour. Hein. C'est Zemmour. Hein. Marine Le Pen, c'est plus vraiment l'extrême droite. Hein. Non, ça a changé. Hein. Ça a changé. Hein. C'est vraiment ça a changé. Hein. Vraiment, quand vous regardez les déclarations des élus locaux, RN, vraiment, ça a changé. Non, pas du tout. Quand vous regardez vraiment les votes des députés RN et déclarations à l'Assemblée, ça a changé.
Pas du tout.
Non, vraiment, si vous penchez sur l'histoire du parti, par qui ça a été fondé... sur les condamnations judiciaires de ces élus au fil des années, des décennies, vraiment, il n'y a pas grand-chose.
Pas du tout.
Non, c'est... Bon. Après, c'est très personnel, et je peux me tromper. Mais mon analyse, c'est qu'on peut encore qualifier le RN aujourd'hui de parti d'extrême droite. Voilà. Mais ce n'est que ma lecture des événements et vous avez le droit de remettre cette lecture en cause, bien sûr. Il y a Corlam qui dit « tu t'arrêtes à des détails aussi » et je pense qu'il y a un joli second degré avec ce mot de « détail », je pense. Est-ce qu'on aura bientôt des méga camions sur nos routes, des poids lourds, genre des trains qui roulent, quoi, sur les routes, bah, c'est ce que souhaite l'Europe et en France, on n'est pas chaud, on va voir. Merci Kodama à l'instant pour le 8e mois d'abonnement. Le Parlement européen se prononce ce mardi sur l'autorisation de circulation des gigaliners. Ah putain, la scène. C'est pour éviter le streamhack, excusez-moi. Le Parlement européen se prononce ce mardi sur l'autorisation de circulation des gigaliners, des camions pouvant faire jusqu'à 25 mètres de long pour 60 tonnes, pour l'instant interdit en France. Alors, dans l'article, ils disent que c'est la longueur d'un court de tennis. Alors attendez, moi je trouve ça fou, quoi. Longueur. Est-ce que c'est vrai? Je vérifie toujours, moi je vérifie tout. Ok, effectivement, et bien c'est pas des conneries. Un court de tennis fait en longueur 23,77 m. Et donc, on veut mettre sur nos routes des camions qui sont en fait plus longs qu'un court de tennis, puisqu'on parle de 25 mètres. Donc, c'est pas une fake news. C'est vrai. Ok, un court de tennis qui roule, quoi. 60 tonnes, pour l'instant, c'est interdit en France. Le Parlement européen tranchera ce mardi à Bruxelles sur un projet de révision de la directive poids et dimensions promue par la Commission européenne, donc c'est Bruxelles qui veut ça, qui traite du poids et de la taille des camions de marchandises. Ce texte permet entre autres de relever à plus de 44 tonnes le poids maximal des camions circulant entre le pays et l'Union européenne et ouvre la voie à la circulation des méga camions, mesure controversée. Que sont ces méga camions ? 60 tonnes, 25 mètres de long, soit la taille d'un terrain de tennis, on a vérifié, dans la longueur, c'est vrai. L'histoire ne dit pas s'il y a Benoît Paire au bout du camion qui dit « telle est l'envergure de ces méga camions, aussi appelés gigaliners ou EMS pour système modulaire européen, qui pourraient être autorisés à circuler entre les États voisins consentants. » Voilà, ça, on vous rappelle qu'en toute matière, entre toute matière, le consentement, c'est important, y compris au niveau européen. Ces camions à rallonge qui se composent d'un conteneur auquel s'ajoute une remorque circulent déjà dans une poignée de pays, ça circule déjà, comme la Suède, la Finlande, mais aussi l'Espagne et le Portugal sur dérogation. L'autorisation de ces gigaliners suscite un vif débat, ouais, tu m'étonnes. Ces défenseurs revendiquent un outil utile pour... Alors, ces défenseurs disent « c'est bon pour l'écologie ». Attends. Oh là là, Tétanos, il ne faut pas s'informer sur Facebook. Tétanos, il ne faut pas t'informer sur Facebook. Il ne faut pas t'informer sur les réseaux sociaux. Non, il ne faut pas. Après, tu dis des bêtises, tu vois. Non. Donc, ton dernier commentaire a été supprimé. Et en fait, il ne faut pas... Voilà. Non. Reste avec nous, mais informe-toi dans les journaux, dans les organes rigoureux d'information. Voilà. Et ne va pas lire les âneries écrites par des gens qui n'ont pas toute leur tête, en fait. Pas toute leur tête. Voilà. Peu importe. On t'aime, reste avec nous. Donc, alors ce qui est incroyable, c'est que les défenseurs de ces gigacamions disent que c'est écolo. Car ces gigacamions permettraient des économies de carburant et d'émissions de CO2 en transportant davantage de marchandises en moins de trajets. Ah bah oui, comme ils sont plus gros, ah bah du coup il y en aura moins, donc c'est écolo. Bof, en fait. Sous couvert d'augmentation du volume du chargement des camions, cette mesure va à l'encontre des politiques de décarbonation de la route menée par l'Europe et de la stratégie de remplacement du fret routier par le ferroutage et par le fret ferroviaire. Ils sont une aberration écologique, tranche l'eurodéputé Pascal Canfin. Pascal Canfin, il n'est pas d'accord du tout, quoi. J'ai vu quelqu'un, mais qui fait peut-être du second degré, qui dit « Elle est où la liberté d'expression ?» La liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire de la merde. La liberté d'expression, ça peut te permettre de dire que la Terre est plate, mais au mieux, les gens, tu vas faire, les gens vont rire de toi. Au pire, tu vas influencer des esprits qui sont pas encore tout à fait formés et qui vont répéter la même connerie que toi, quoi. Donc la liberté d'expression, c'est pas foutre de la merde dans le cerveau des gens. Je ferme la parenthèse. Je pense que c'était une vanne. En 2009, lors du Grenelle de l'environnement, et en 2015 au Parlement européen, la France était déjà opposée à la mise en place d'une législation favorable à ces mastodontes des routes. Voilà. Donc là, pour la France n'est pas super pour, quoi. L'eurodéputé écologiste Karima Deli, qui est présidente de la commission du transport et du tourisme, a déposé 2 amendements pour stopper ces monstres pollueurs. Ils vont poser des problèmes en termes de sécurité, de circulation, d'infrastructures routières qui ne sont absolument pas adaptées, notamment lors du premier et du dernier kilomètre. Du côté de ceux qui veulent voir ces gros camions rouler, ils disent que ce ne sont pas des véhicules qui ont vocation à circuler dans les centres urbains. Oui, alors je veux bien, effectivement, ça m'arrange. Qu'un camion long comme un court de tennis aille pas faire des virages en bas de chez moi. Ouais, je suis assez OK. C'est ce que veut rassurer Erwan Sélarier, qui est délégué aux affaires techniques et à l'environnement et à l'innovation de la Fédération nationale de transport routier. Vous en pensez quoi de cette histoire des méga camions, vous ? Salut Natim, bonne journée à toi. Merci ICAM TV pour le Prime, merci. Merci Konama encore. Donc je résume, dit Poulpi Force, on veut nous filer des camions gigantesques alors qu'on peut mettre toutes les marchandises sur un train. Mais quelle idée, quelle est bonne. C'est fou comment en France, d'ailleurs, ça ne marche pas, hein, les camions sur les trains. Là. J'ai l'impression que régulièrement, c'est relancé, mais ça ne fonctionne jamais. Je vous lis. Super dangereux. Déjà que ma petite citadine se fait aspirer par les camions sur l'autoroute. Ah ben, santé mais pas les pieds me répond. Ben, les trains, c'est sympa, mais ça ne va pas partout. Ouais, je pense que c'est moins pratique pour les boîtes, ouais. C'est déjà le bordel sur les routes, pas sûr que ça aide, me dit Narco. Ils se garent où ? Ils rentrent comment sur les autoroutes ? Ils roulent comment dans les villes ? S'interroge Casiel. Il y a Michel Bertrand qui dit, j'aime bien, je ne suis pas expert, mais pour moi, ça, c'est dû à l'engouement de Euro Truck Simulator. Ça, c'est la faute des jeux vidéo, ça. Ça, c'est la faute des jeux vidéo. Le jeu est trop bon, me dit Michel. Xavier, CGT Gaming, joli pseudo, merci pour ton soutien. Le fret ferroviaire est une chimère, me dit Owen. Merci Almé, c'est faux, mais c'est gentil. C'est déjà dangereux un camion sur l'autoroute, me dit Alain Melon. Enfin, je serre déjà les fesses, alors un giga camion. Joli. Bon, vous n'êtes pas super chaud hein, pour cette histoire de gigacamion. Ok, bon, à suivre, il y a un vote aujourd'hui au Parlement européen sur cette directive souhaitée par Bruxelles, par la Commission européenne. Transport, toujours. Fini, la petite carte verte, le petit papillon, là, vert de l'assurance automobile sur le pare-brise, qui était obligatoire depuis 1986, vous vous rendez compte, ça ne nous rajeunit pas. C'est le Parisien qui nous le dit. Bon, bah, à partir du 1er avril, et ça n'est pas une blague, eh bien, c'est finito, le papillon de l'assurance automobile sur le pare-brise. Comment va-t-il se passer en cas de contrôle ou d'accident ? Le Parisien nous dit tout. Vamos. Dès le 1er avril, donc, les Français ne devront plus apposer la carte verte d'assurance automobile sur le pare-brise de leur véhicule, obligatoire depuis 1986. Vous vous rendez compte ? Ça remonte un petit peu. Il y a une mesure de simplification demandée notamment par les assureurs qui va leur permettre d'éviter l'envoi chaque année de quelques 50 millions de documents par voie postale. On va économiser du papier, on va économiser des timbres, ça va faire moins de pollution. Mais qu'est-ce que ça va changer sur la route ? Est-ce qu'on peut enlever la carte verte dès le 1er avril ? Oui, vous pouvez. Si l'obligation d'assurance en responsabilité civile demeure, on est toujours obligé d'être assuré, bien sûr. Bon, il y a Honnêtebo qui est en avance, qui l'a enlevé en mars, il pensait que c'était en mars. Bon. Serre les fesses, Il te reste 18 jours à tenir jusqu'en avril. Évite de te faire arrêter quand même. Si l'obligation d'assurance en responsabilité civile demeure, terminez la menace de l'amende de 35 € au cas de non-affichage de la carte verte ou de non-présentation de l'attestation. Vous pourrez donc retirer la vignette de votre pare-brise. Samuel, est-ce que tu tombes le t-shirt pour le débardeur des fois ? Tu veux que je mette un débardeur un peu un Marcel, genre un peu comme Marlon Brando ? Ça sera pas, non. Tu vois Marlon Brando ? Eh ben, je suis pas sexy comme ça. Non, je suis un peu... Non. Tu vas être déçu. Tu vas désub. Tu vas unsub. Tu vas enlever la notification de la chaîne. Non, non. Mauvaise idée. N'hésitez pas à activer les notifications d'ailleurs de cette chaîne. Et n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à suivre mon compte TikTok. Vous avez compris le principe. Pourquoi disparaît cette vignette ? La suppression de la vignette automobile est la conséquence de la création du fichier des véhicules assurés, le FVA, créé en 2016 par France Assureur, alimenté par les compagnies et utilisé par les forces de l'ordre depuis 2019. On estime que sa fiabilité atteint 99,3%. Le truc fonctionne bien. Les compagnies ou leurs intermédiaires ont 72 heures après le début de la couverture pour renseigner les données relatives au contrat dans ce FVA. Donc normalement, 3 jours après, 24, c'est ça, 3 jours après que tu sois assuré, normalement, ça doit être rentré dans le truc. Les automobilistes pourront d'ailleurs bientôt vérifier qu'ils sont bien inscrits pour qu'il n'y ait pas de soucis. En cas de contrôle ou d'accident, est-ce que vous avez un document à présenter ? Non. Dès le 1er avril, en fait, les forces de l'ordre pourront interroger le FVA pour vérifier que l'obligation d'assurance est bien respectée. Je pense qu'ils rentreront en fait la plaque d'immatriculation. Néanmoins, si vous êtes assuré depuis moins de 3 jours et que votre véhicule donc, n'est pas encore inscrit dans le fichier, là, vous pourrez présenter un petit document, hein, je pense que vous aurez reçu par mail, par votre assureur, avec tous les éléments du contrat et qui fait office d'attestation pendant 15 jours. Voilà. Des questions ? C'est clair, hein ? C'est clair. Côté moto, pareil. Tu n'es plus obligé de mettre le truc. Idem. J'ai vérifié. Petit Louis le fromage, qui est un motard ou une motarde. Joli. Est-ce qu'il faut garder son attestation dans la boîte quand même ? Non, MacGregor, non. T'es pas obligé de présenter un document, c'est clair. Par contre, il faut que tu sois assuré. Il y a Dodoline qui nous inquiète un peu. Il dit, je suis dans les assurances, le système fonctionne pas très très bien. On a beaucoup de retours à ce sujet, des gens qui se sont fait verbaliser alors qu'ils étaient assurés. Bon, il y a une possibilité de recours. Hein. Ok. Les skateboards, R&D, non. Ça rentre en œuvre des procs le 1er avril. Et ça n'est pas une blague. Ça retire une épine du pied. J'oublie tout le temps de changer la vignette par la nouvelle, me dit Roger la banane. En ce moment, les épines au pied, c'est vrai que c'est quand même un sujet très problématique. Hein. Parfois, ça a des conséquences très lourdes, les épines dans le pied. Très lourdes. Je pense que vous avez la ref. Ah ouais, bonne question, remarque de G5, mais comment ça peut poser problème alors que c'est pas encore en vigueur ? Ah, peut-être, parce qu'en fait, même quand t'as le papillon, il vérifie en cas de contrôle que t'es bien dans le fichier et que parfois t'y es pas. Ah, Dodoline me dit parce que ça a été testé avant la mise en place officielle. Ok, c'est intéressant. Cool. Top. Hop, je vérifie un truc. Toc, toc. Et je vais vous parler d'Aya Nakamura et de la mobilisation de citoyens français, a priori d'extrême droite, pour dire « Ouais, Aya Nakamura, elle va chanter au JO, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne suis pas d'accord. » Voilà, bon, on va se pencher là-dessus et Libération qui prend la défense de la chanteuse. Voilà. Vous avez peut-être suivi ce truc. Aya Nakamura, les racistes. Pookie, vous prenez. Excellent titre de Libé, puisque Pookie, c'est une chanson d'Aya Nakamura Donc, le Bala Fofana, qui est journaliste au service mode de vie de Libération, se sert de chanson pour ce petit jeu de mots. Pour qui vous vous prenez les racistes, nous dit... comment ça, Jules? Ah bon, c'est pas une chanson d'Aya Nakamura? Si, je crois que si. Pour qui? Si, c'est Aya, c'est ça. Si. Let's go. Ça fait maintenant 2 semaines, donc nous rappelle Libération, qu'Aya Nakamura pressentie pour chanter à la cérémonie d'ouverture des JO, hein, tout simplement, est la cible d'une campagne de dénigrement raciste, orchestrée par des éditorialistes et figures de l'extrême droite. Ah bah décidément, ce matin, on en parle. Les identitaires, habités par l'obsession de laver plus blanc que blanc, s'en donnent à cœur joie dans une impunité déroutante quand on sait qu'ils font l'apologie d'une préférence raciale. Samuel, pourquoi toujours prendre un journal d'extrême gauche? Sophie, tu trouves que Libération est un journal d'extrême gauche? Tu trouves que Libération est un journal d'extrême gauche? C'est une blague. Mais t'avais pas mis le petit clin d'œil. Tu trouves que Libération est un journal d'extrême gauche? Mais du coup, le Figaro, c'est un journal de gauche? Quel est ton. Comment tu. Enfin bon. Let's go. Les identitaires habités par l'obsession de laver plus blanc que blanc s'en donnent à cœur joie dans une impunité déroutante quand on sait qu'ils font l'apologie d'une préférence raciale. Le collectif d'extrême droite Les Natifs a déployé en bord de scène à Paris une banderole honteuse et raciste, c'était samedi, le tout relayé par le rance média Livre Noir, média entre guillemets, qui s'est fendu d'un post nauséabond sur X sur Twitter. Il n'y a pas moyen, Aya, j'ai la ref, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. L'élégance du tweet. Dimanche soir, lors de son meeting, Éric Zemmour a sauté à pieds joints dans la surenchère d'idées mortifères. Notre journaliste Nicolas Massol a rapporté ses propos délirants, je cite, « Les futurs bébés n'ont pas de culture, ils ne savent rien, mais ils détectent la beauté, ils aiment cette beauté. Ils ne votent pas pour le rap. » Zemmour dit « Les bébés ne votent pas pour le rap. » Ni pour la lambada. Ni pour Aya Nakamura. Il vote Mozart à 91%. Zemmour a trouvé un sondage où les bébés français, clairement, votent à 91% pour Mozart. Zemmour a trouvé des études scientifiques carrées, approfondies, irréfutables, qui disent que les bébés n'aiment pas le rap, n'aiment pas la lambada, n'aiment pas Aya Nakamura. No comment. Zemmour, déjà condamné pour provocation à la haine raciale, réveille ainsi les anciennes complotistes de l'insécurité culturelle. L'étape franchie dans l'injure publique et dans l'humiliation vient rappeler à quel point l'artiste que le monde entier nous envie est le catalyseur de toutes les objections. Et là, moi, j'ai bugué. Je dis, l'artiste que le monde entier nous envie, Libération, Aya Nakamura, comme vous y allez. Enfin, c'est très subjectif quand même, l'art. Mais bon, après, Libération a donné des exemples en disant, si, bon, ok. L'artiste franco-malienne a répondu sur X, vous pouvez être raciste mais pas sourd, c'est ça qui vous fait mal, je deviens un sujet d'État, numéro un en débat, mais qu'est-ce que je vous dois en vrai? Que dalle, la réponse de Aya. Il est vrai qu'elle ne leur doit pas grand-chose, mais collectivement, nous lui devons beaucoup. Libération estime que nous devons beaucoup à Aya Nakamura en termes de projection de l'image de la France à l'étranger. Bon, ça après c'est subjectif, mais Libération a le droit de le penser aussi, quoi. Bon, moi je connais trop mal l'œuvre. Alors excusez-moi, il faut que je passe un coup de fil très urgent. À l'instant, donc je vous mets en pause et je vous parle d'Aya Nakamura juste après. Je vous mets une petite pause musicale pour les abonnés, mini pub pour les autres et je reviens très très vite. Alors pour le coup, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Qu'est-ce que je vais mettre comme musique? Hop. Je vais mettre un truc un peu cool. Un truc d'amour. Oh. Je me dépêche. À tout de suite. J'arrive tout de suite. Beneath the starlit sky, our love secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time.
Starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time.
Change color.
Désolé les amis, coup de fil que je n'avais pas prévu, qui n'était pas un rendez-vous, mais qui était très important puisqu'il concernait un rendez-vous de... Mais Madrid, c'est pas ce week-end, Didi. Vous êtes plein de parler de Madrid. Le VCT de Madrid, c'est le week-end du 22, 23, 24 mars. C'est pas du tout... c'est pas ce week-end, les trucs importants. Ah, il y a peut-être des choses ce week-end, remarque, t'as raison. Ok. Non, c'est le week-end du 22, 23, 24, où je vais au VCT de Madrid pour regarder de l'e-sport. Voilà. Oui, non, j'avais un rendez-vous très important cet après-midi à 13h. À 13h, qui est même sans doute un des rendez-vous les plus importants de ma carrière professionnelle. Bon. Donc un rendez-vous très 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 important, et puis en fait la personne est un peu malade, et donc on a reporté. Voilà, du coup, moi je vais pouvoir faire autre chose cet après-midi, hop, donc ça, donc du coup j'ai recalé un autre rendez-vous à la place. Voilà. Ok. Peut-être faire. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir faire un peu de sport ce midi. Ok, cool. Plutôt que lancer encore une game de Valo ce midi, alors qu'on va rejouer ce soir, eh bien, je vais profiter pour aller courir. Du coup, j'ai calé un rendez-vous, mais à 15h. Et donc, avant 15h, je vais pouvoir courir. Et il serait temps que je cours. Il y a Clamakin qui me dit un peu de Valorant. Ouais, j'ai un marathon de Paris dans 3 semaines et je ne suis pas prêt du tout. Donc, il faut que je recours. Yanis, bonne question, même si on l'a posée plein de fois depuis la création de cette chaîne, mais tu peux pas être là tous les jours. Dis-nous, Samumu, en diffusant les journaux sur Twitch, est-ce qu'il n'y a pas l'histoire de droits d'auteur qui entre en jeu ? Alors, exemple, si je prenais un journal comme Le Monde et que je le lisais tous les jours intégralement sur ma chaîne, ça s'appelle du pompage de contenu. Hein. Voilà, c'est-à-dire que je m'approprie le travail d'autres personnes, en l'occurrence de centaines de personnes, parce qu'une rédaction, c'est parfois des centaines de personnes, et je pompe allègrement ce contenu sans demander l'autorisation pour créer un contenu et monétiser dessus. C'est vraiment du travail de chacal. La revue de presse, c'est autre chose. La revue de presse, c'est lire plein de journaux et aller prendre des petits bouts de journaux pour les mettre en avant. Voilà, donc tu lis pas tout un article, tu lis un bout de l'article, tu lis pas tout le journal, tu lis une toute petite partie du journal et tu en cites plein. Ça, c'est le droit à la citation, c'est le droit de la revue de presse, c'est quelque chose qui est reconnu depuis toujours. La revue de presse, c'est pas moi qui l'ai inventé, il y en a en radio et en télé depuis toujours, donc ça ne pose aucun problème. Il se trouve par ailleurs, et c'est sur un plan légal, que je suis un amoureux de la presse écrite et que les journaux le savent et que je mets en avant cette presse écrite qui est pour moi une des meilleures sources d'informations possibles pour savoir ce qui se passe en France et dans le monde. Quoi. Donc les journaux, non seulement ne m'en veulent pas, mais sont plutôt contents de ce que je fais autour de la presse écrite. Mais merci de ta question. Tact Cause, merci beaucoup pour le soutien. Cox WTF, merci pour le Prime. Mopinou, bon anniversaire. Est-ce qu'on peut envoyer un max de bon anniversaire à Mopinou qui fête son birthday aujourd'hui ? S'il vous plaît. Mopinou, avec un Y. Voilà. Et ce soir, Valo, à partir de 21h, 21h30, 22h, après un dîner avec mon amoureuse, mais là, pour essayer de passer, faire 3. Oh, merci pour les joyeux anniversaires, vous envoyez à Mopinou, vous êtes trop gentil. Donc ce soir, il y a de l'enjeu. Merci Elliot Benben pour le deuxième abonnement. Alors, on revient à Aya Nakamura. Libé nous disait à propos de Nakamura, en fait, la France, on lui doit beaucoup. Il s'agirait, nous explique Libé, de... prendre conscience de l'ampleur du raz-de-marée qu'elle représente, notamment à l'étranger. Voici une liste non exhaustive de ses coups d'éclat. Faire twerker Rihanna et la troupe de danseurs de Madonna sur de ses hits. Lancer une collab avec Balenciaga, validée par Burna Boy et Kim Kardashian. Être invité à Bercy par la diva Alicia Keys. Conquérir l'Amérique du Sud avec un remix reggaeton signé par Maluma. Côté chiffres, une pluie de records pave l'ascension ahurissante de l'artiste française la plus écoutée du monde. C'est l'artiste française la plus écoutée du monde. Tiens, d'ailleurs, il faut que j'annule mon taxi, moi, pour mon rendez-vous. Parce que du coup, je n'ai plus de rendez-vous à 13h. Hop ! Sinon, le taxi va m'appeler en disant « Vous êtes où, monsieur Étienne ?» Je dis « Oh, merde, excusez-moi. Tant pis, facturez-moi la course. » Je dis « Bah, j'y compte bien. » Il faut que j'annule. Hop, 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 hop. Et c'est annulé. C'est l'artiste française la plus écoutée dans le monde. Florian dit « J'aime pas sa musique, mais je dois avouer que c'est l'une des seules françaises que j'écoute en boîte à l'étranger. » En juillet 2021, l'album Nakamura a franchi la barre du milliard de streams sur Spotify. Elle est la seule artiste féminine française à avoir réussi cet exploit. Son tube Dja Dja frôle le milliard de vues sur YouTube. Fort de ses prouesses, l'équation paraît simple. Avec Aya, c'est la France qui gagne, estime cette journaliste de Libé. La gamine de Seine-Saint-Denis, département qui héberge le village olympique, est un élément de soft power français dans l'univers impitoyable d'une pop culture dominée par les langues anglaises et espagnoles. Ce n'est pas un hasard si l'Élysée a décidé de mettre en avant l'artiste française la plus influente de sa génération en lui demandant de chanter Édith Piaf. Au lieu de célébrer sa réussite, nombre de ses détracteurs lui reprochent d'avoir braqué l'industrie du disque en imposant un style, une esthétique calipige, une gouaille, un flow cru. Aya Nakamura ne se lisse pas, ne gesticule pas pour entrer dans un carcan. Elle est le choix du peuple, pas la favorite des maisons de disques qui préfèrent des chanteuses pop plus insipides, estime Libé. Esthétique calipiche avec des rondeurs, je crois, Dre Fox. Alors on lui fait la guerre. N'oublions pas qu'à ses débuts, des pontes de l'industrie lui avaient demandé de se blanchir la peau pour toucher un public plus large. Sa réussite insolente est le catalyseur de toutes les réactions épidermiques d'une société en proie au spectacle sordide de la haine de l'autre. Notre pays ira mieux le jour où Aya Nakamura bénéficiera enfin du droit à l'indifférence. Une reprise de Piaf par Aya Dianoko, c'est son vrai nom. C'est aussi participer à un moment d'éducation populaire en tentant de faire le pont entre les générations. Une occasion de rappeler que de Montmartre à Aulnay-sous-Bois, aux faiseuses de tubes qui contribuent au rayonnement de la France, la patrie est reconnaissante. Si Aya s'efface, si Aya n'ouvre pas les jeux, c'est la France qui perd assurément. Bon, c'est un billet, c'est un édito, c'est un article engagé de quelqu'un qui prend position. Voilà. Mais il y a des choses intéressantes dans cet article quand même. Merci Pilote pour le deuxième mois. Cette polémique est ridicule, estime Rorosito. Ça part d'une pauvre humeur, elle se fait dénigrer dans tous les sens alors qu'elle n'a rien demandé. Je n'écoute pas sa musique, je n'aurais sûrement pas fait ce choix pour les jeux, mais je respecte la personne et le succès qu'elle a en France, à l'étranger. Je te dis bravo pour ce commentaire. Merci Dami Licum pour le prêt. Je pense quoi du métier d'éducateur spécialisé? Je porte que du bien. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ces métiers essentiels et difficiles. Ce n'est pas mon style, dit Benoît, mais je lui souhaite une grande réussite dans sa performance pour elle et pour la France. À supposer qu'elle participe à l'ouverture des Jeux, il n'y a rien d'officiel en plus. J'aime cette ouverture d'esprit que je vois dans le chat, Captain McBernick, ce n'est pas mon style, mais je comprends que ça plaise. Cyril dit « Je n'aime pas l'artiste, mais je comprends qu'elle a été choisie. Je ne demande qu'à être surpris par sa performance au JO. » Sarah Molly, modératrice de cette chaîne, le fait qu'Aya, artiste internationale et contemporaine, reprenne du Piaf fait absolument sens. Mélanger une ancienne icône musique FR et une icône actuelle, c'est juste hyper pertinent. Dja, excusez-moi. J'aime bien, moi. Ok, c'est cool. En tout cas, j'aime ce que je lis dans le chat. Voilà. Cette pondération. Penchons-nous sur un truc qui peut paraître anecdotique et un peu people et un peu la vie des princesses, tout ça. Et en fait, qui est plus sérieux que ça n'a l'air. Ça pose la question d'abord de la santé d'une femme. Voilà. Donc, on peut légitimement s'inquiéter sur la santé de la princesse de Galles aujourd'hui, Kate Middleton. Et on peut aussi s'interroger sur comment parfois certains essaient peut-être de nous influer, voire de nous manipuler avec des fausses informations. C'est l'histoire de la photo manifestement truquée que vient de publier Buckingham Palace à propos de la princesse de Galles. Le cliché retouché, donc, secoue la couronne, c'est page 8 dans Le Parisien, destiné à rassurer sur l'état de santé de la princesse de Galles qui n'a pas été vue en public depuis très longtemps. Et autour de laquelle il y a beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes sur sa santé. La publication dimanche d'une photo de Kate Middleton entourée de ses enfants a produit l'effet inverse. La nouvelle annus horribilis des Windsor, ce début 2024, y ressemble de plus en plus pour la famille royale. Tout avait pourtant bien commencé. En ce dimanche de fête des mères au Royaume-Uni, un peu après 9h, le palais de Kensington diffuse une photo surprise de la princesse de Galles. On découvre une Kate radieuse, c'est vrai qu'elle est souriante, magnifique. Entourée de ses trois enfants, l'image est reprise dans le monde entier et suscite des réactions enthousiastes, tant la jeune femme y semble en bonne santé. 10 heures plus tard, le beau portrait de famille passe dans la quatrième dimension. C'est le temps qu'il aura fallu aux agences de presse pour réaliser que la photographie avait été retouchée, avait été truquée au point d'être non publiable. Des centaines de milliers de Sherlock Holmes du Pixel en ont étudié chaque recoin, pointé les anomalies. Elles sont nombreuses. Le quotidien The Times a dénombré 16 anomalies dans cette photo. Il y a un petit souci quand même. Cette publication était destinée à rassurer sur l'état de santé de l'héroïne du jour. Ce serait juste une photo pour qu'elle soit plus belle, même si à mon avis, elle n'a pas besoin de ça. Bon, bah, zéro débat, quoi. Mais là, c'est une photo qui voudrait nous faire croire qu'elle est en pleine santé, alors que justement, on est très inquiet. Le peuple britannique, notamment, une partie du peuple britannique, sur la santé de la princesse. Cette publication était destinée à rassurer sur l'état de santé de l'héroïne du jour. La princesse qui a subi une opération de chirurgie abdominale, c'était le 16 janvier, et a fait taire les rumeurs. En effet, Kate n'a pas été vue en public depuis Noël. Depuis Noël, on est en mars, alors qu'elle a énormément d'obligations publiques, justement. Le palais a beau dire qu'elle reviendra début avril, la durée de son hospitalisation puis celle de sa convalescence ont laissé perplexe bien des Britanniques. Merci beaucoup l'amulette, merci beaucoup D2A, merci beaucoup d'amis encore. Où est Kate ? Où est Kate ? La question devient pressante. Plus les scénarios sont délirants, plus ils ont du succès sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Est-ce qu'elle est en instance de divorce ? Est-ce qu'elle est dans le coma ? Est-ce qu'elle a été kidnappée ? Bon, ça part dans tous les sens. Rome, le Romain, je t'envoie de la force. La pression, quelqu'un qui vient d'être hospitalisé, la pression aurait été trop forte. Avec ce partage de photos dimanche, qui a décidé de publier cette photo truquée ? On l'ignore. C'est une débâcle de communication, dit le journal The Guardian, qui est un excellent journal britannique. Un énorme but contre son camp pour le palais, pour le Daily Mail. Cet editing relève-t-il de la malhonnêteté ou de l'incompétence ? Pas sûr qu'on en apprenne davantage. L'humoriste Rosie Holt exige publiquement une preuve de vie de Kate Middleton avec le journal du jour. Face à l'ampleur du scandale, Kate Middleton, enfin supposé que ce soit elle, est sortie du silence avec un message publié sur Twitter, sur X, en déclarant « Comme beaucoup de photographes amateurs, je m'essaie parfois à l'édition », a-t-elle plaidé dans un message, s'excusant pour la confusion créée. Donc elle dit « En fait, c'est moi qui l'ai modifié. Bon. » Alors, certains, tout à l'heure, me disaient « Ah, c'est ça, c'est de la peoplerie, c'est l'actu des people, on s'en fout. » C'est pas important. Alors, oui et non, parce que la famille royale britannique a un rôle qui va au-delà du people en Grande-Bretagne. Pour ceux qui s'intéressent à la vie politique et institutionnelle de ce pays, vous le savez. Et surtout, ça pose la question de la désinformation, du mensonge. Le Buckingham Palace étant une institution, en fait. C'est pas juste des gens comme ça. Donc il y a un communiqué public et une photo publique et une photo qui est fausse, en fait. Donc ça pose quand même beaucoup de questions. Maxime qui dit, est-ce qu'on n'en fait pas trop pour une simple photo ? Est-ce qu'il n'y a pas plus grave dans le monde ? C'est pas la photo, encore une fois. C'est le fait que les Britanniques ont peur que cette photo cache quelque chose de grave, quelque chose qui soit arrivé à Kate Middleton, et pose la question de comment on peut essayer de mentir au monde entier avec une photo qui est un faux document, en fait. Alors, tiens, c'est marrant parce qu'il y a, Lord Plinosa qui nous parle de François Mitterrand. Alors, vous allez, what? Mais si, bien sûr. Qu'ils prennent, les Britanniques, exemple sur Mitterrand pour cacher ses problèmes de santé, pas mal, non, c'est français. Alors, il y a, les plus jeunes, vous ne pouvez pas vous rappeler de cet épisode, mais François Mitterrand, alors qu'il était au pouvoir, alors qu'il était président, est tombé gravement malade, un cancer, si je ne dis pas de bêtises, qui l'a énormément affaibli. Et en fait, il a caché la vérité sur son état de santé aux Français, alors qu'il était président et devait donc en pleine capacité de ses moyens pour diriger le pays. Hein. Et je crois même me rappeler que les bulletins médicaux sur l'état de santé étaient faux, en fait, étaient trafiqués. Quoi. Dans une démocratie, en fait, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas cacher aux citoyens, aux gens qui t'ont élu notamment, et aux citoyens en général, que en étant président d'une des premières puissances au monde, la France, eh bien, tu es gravement malade, quoi. Voilà. Donc, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Bon, ici, on n'est pas sur l'exercice du pouvoir. Non, les bilans médicaux étaient bidonnés, hein, me dit Papa Sayan. C'est bien le souvenir que j'en avais. Et ceux qui disent que Kate Middleton ne sert à rien, ce n'est pas connaître l'importance de la couronne et de la famille royale britannique, y compris dans les affaires publiques du royaume, en fait. Alors, évidemment, la réalité du pouvoir n'est pas du côté de Buckingham, mais plus du côté de la chambre, du House of Commons, du Parlement britannique, de la chambre des Lords éventuellement, mais surtout la chambre des députés, l'équivalent est du thème Downing Street, le siège du Premier ministre, évidemment. Mais l'histoire l'a montré, c'est quand même une institution qui influe sur la vie du pays, la vie publique, par plein de choses, sa fonction de représentation, sa fonction d'influence, etc. Ça n'est pas rien, quoi. Ça n'est pas rien. Après, moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Je le cache pas. En tant que républicain, ce qui arrive à la famille royale britannique, je vous dis mon sentiment, je m'en carre le cul. Je ne m'intéresse pas du tout. Oui, donc je comprends les critiques sur « Ah, mais c'est de la pipolerie et tout. » Mais je m'en fous. Mais d'une puissance. Alors ça, les mariages, les décès, les trucs, là, pardon, mais là, le décès de la reine, là, mais je m'en fous. Mais si j'étais britannique, je pense que ça m'intéresserait. Voilà. Mais en tant que républicain français, mais comme de ma dernière paire de chaussures, quoi. Ou ma première, plutôt. Mais rien à foutre. Et c'est normal. Mais en tant que bon républicain français. En revanche, effectivement, je pense que pour un citoyen britannique, pour le rôle joué par la famille royale, là c'est un vrai intérêt, quoi. Voilà. Or, on s'intéresse ici pas qu'à ce qui se passe en France. Donc on s'intéresse aussi à ce qui intéresse nos amis britanniques. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. Ça m'intéresse par contre. Voilà, oui, c'est très subjectif. Bon, voilà. Moi, la famille royale britannique, je ne m'intéresse pas. Mais le mouvement punk, ça m'intéresse. Voilà, et notamment la scène punk française musicale du début des années 80. Bon, ça m'a beaucoup intéressé à l'époque. Là, il y a une très belle exposition dont parle l'Humanité ce matin. Bravo l'Humanité, parce que ça fait plusieurs jours que je lis des articles sur cette exposition. Et c'est vraiment le premier article que je trouve vraiment bien foutu là-dessus. Une exposition à la Bibliothèque nationale de France sur un groupe mythique qui s'appelle les Berruriers Noirs, hein, les Berrues, qui est un groupe phare de la scène punk musicale française du début des années 80. Et l'article est super bien fait et nous permet d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas le mouvement musical punk français du début des années 80 et les Berrues, les Berruriers Noirs, eh bien, de savoir ce que ça a été, parce que c'était quelque chose, nom de Dieu. Les Quepons, donc Verlan pour punk, s'affiche à la BNF. Deux membres du groupe mythique Berruriers Noirs ont fait don de leurs archives, en fait, à la Bibliothèque nationale de France. Un petit événement pour un mouvement musical qui a marqué toute une génération, effectivement, dont moi et bien d'autres. Carnet de notes, photographies, vidéos, accessoires de scène, affiches, fanzines. La machine à remonter le temps opère à plein tube. Dans cette petite salle de la BNF à Paris, on scrute attentivement les quelques documents exposés qui racontent à la fois l'histoire d'un groupe et d'un pays. depuis le milieu des années 70, la jeunesse s'ennuie. Mai 68, c'est déjà un truc de vieux, de bourgeois, tout est rentré dans l'ordre. Giscard veille au grain. Outre-Manche, la politique ultralibérale de Margaret Thatcher fait des ravages. Face à son intransigeance, à son « There is no alternative » de Thatcher, la scène musicale anglaise, sous l'impulsion des Clash en particulier, explose tous les codes. Le mouvement punk donne le vertige à la bonne société anglaise. Là, on est sur la fin des années 70. 10 mai 1981, élection de François Mitterrand, on en parlait à l'instant, la France tourne le dos au giscardisme, la gauche emporte l'élection présidentielle, l'euphorie sera pourtant de courte durée. Depuis quelque temps, le punk made in France gronde dans les sous-sols des cafés, dans la rue, dans le métro, dans les usines abandonnées, dans les squats. Ce mouvement, aussi marginal soit-il, draine dans son sillage des dizaines de groupes. Hein. La plupart sont des musiciens autodidactes, il suffit de brancher une guitare et de jouer vite et fort, hein. Ce n'est pas forcément des grands mélomanes. Au côté des Bérus, on croise des dizaines de groupes, LSD, La Souris Déglinguée, Parabellum, Ludwig von 88, mais aussi les Garçons Bouchers, les Vampasses, les Shérifs, OTH. Tous bousculent une industrie musicale formatée, leur énergie, leur rage provoquent des étincelles, ils touchent une jeunesse qui ne se reconnaît pas dans une société qui adoube Bernard Tapie, vante l'argent comme seul baromètre de réussite et voit l'éruption du Front National européenne de 1984. Le No Future est un cri de provocation et de détresse de nouveaux working class heroes. Il dit le malaise d'une partie de la jeunesse qui a compris qu'elle sera condamnée à la précarité. Alors elle pogote, le pogo, que certains peut-être ont pratiqué ici, en avoir le tournis, n'hésite pas à se battre avec les skinheads, organise des concerts contre le racisme et les violences policières. L'exposition des Bureliers Noirs raconte cette épopée. Les Bérus, c'est François, Laurent, Masto, Jean-Mi, Mistiti, Titi, Jonah Palme, Elno, avant les Négresses Vertes, LOL, Pascal Kung Fu, une sorte de Big Bazar Destroy qui organise Salle de la Roquette en 83, un concert contre l'ordre bourgeois et pour un État prolétarien, outrancièrement grimé, portant des masques, des faunés. Ils critiquent l'ordre social dans leurs chansons porteuses d'espoir. Leurs concerts sont des moments d'anthologie aux allures circassiennes, donc l'univers du cirque, où le public ne se prive pas d'envahir la scène. Ils jouent contre les violences policières, contre les fascistes, contre les racistes, contre Pasqua et Pandro, les tontons flingueurs du ministère de l'Intérieur de Jacques Chirac, et appellent à la révolte. Les Bérus, soucieux de leur liberté, contrôlent tout, de la musique aux affiches de concerts, de la production à la distribution de leurs disques. Ils éditent des fanzines, affichent leur indépendance, dessinent les contours d'un modèle économique. Encore un message important. Pas possible. Hein ? Quoi ? Hein ? Je comprends rien. Ouais. Compliqué parfois. Bon, on va ça tout à l'heure. On était où là ? Les Bérus donc contrôlent tout de leur création artistique, quoi, dessinant un nouveau modèle économique alternatif qui permettra l'explosion d'autres groupes. En 87, Salut à toi, titre mythique, devient l'hymne de toute une jeunesse qui hurle la fraternité, la solidarité. Le groupe, à l'instar des Garçons Bouchers, revendique une conscience politique, un brin libertaire, anarchiste. En ces temps de morne pleine musicale, sa musique provoque des bouffées d'adrénaline salvatrice. On va pas être ban pour ça, on va aller se faire un petit salut à toi. Titre mythique des Bérus. Quelques secondes. Tiens, il y a un live. Oh, c'est génial. Il y a un live à l'Olympia. Oh la vache, incroyable. OK, on va se poser quelques images. Non, ça, c'est pas salut à toi, jeune entrepreneur. Un truc beaucoup plus sympa. Oui, ce qui est drôle, c'est que François Guillemot, le chanteur du groupe Les Bérus, est effectivement chercheur maintenant. Il est historien au CNRS, donc l'Archibald. Ouais, j'ai vu ça, c'est incroyable. C'est assez fascinant. On va écouter Porcherie aussi, Yoasco. C'est incroyable. Twitch, laissez-nous regarder ça un petit peu, quoi. c'était trop bien. Et je suis obligé d'arrêter parce que je peux pas en passer plus. Sinon, DMCA à fond. Mais allez écouter la manifestation. Je vois qu'il y a une vidéo de salut à toi en live à l'Olympia. C'était quelle année ça? Hop. C'était. Je sais pas en quelle année c'était. Enfin, c'est incroyable quoi. Allez voir ça quoi. Allez voir ça. C'est magnifique. Hop, on continue l'article. Hop. D'ailleurs, on évoque une autre chanson. Si l'exposition à la BNF est intime par sa taille, elle témoigne d'une histoire du rock français. En 89, les Berruriers Noirs annoncent leur dissolution. 3 soirs de concert héroïques à l'Olympia. Ah bah c'est ça, c'est ce qu'on vient de voir. Incroyable. Wanir, non, pas toi, pas après tout ce que t'as fait. Non. Ah non, il y a Wanir qui confond Noir Désir et les Berruriers Noirs. Ah non, Wanir, pas toi. Non, pas après tout ça, pas après toutes ces heures ensemble. Si l'exposition est intime par sa taille, elle témoigne d'une histoire du rock français. En 89, les Berruriers Noirs annoncent leur dissolution, 3 jours de concert héroïque à l'Olympia. Donc, lorsqu'ils lancent le morceau Porcherie, donc autre titre mythique, référence explicite au film de Pasolini sur le capitalisme décadent, le public retient son souffle. Je cite des paroles, nous sommes blancs, nous sommes noirs, nous sommes jaunes, ensemble nous sommes de la dynamite, plus jamais 20%, score électoral du FN à l'époque. Éclate alors ce cri de colère repris à plein poumon, la jeunesse emmerde le Front National. Ce cri n'a rien perdu de son actualité, on peut le regretter, écrit l'humanité. On peut aussi décider de s'en emparer à nouveau, ici on est des foufous et on va essayer de trouver une vidéo de la chanson Porcherie. Porcherie. Et ouais, j'ai toujours à l'Olympia.
Qu'est-ce que ça?
Ça, c'est autre chose, ça. Putain, j'ai. Quelques secondes. Ouais. Ça me manque alors que je ne l'ai pas vécu. Donc, c'était incroyable. Moi, je remercie la famille, une famille de Rennes qui m'a fait découvrir cet univers puisque c'était un copain de lycée qui s'appelait Grégory. Il avait un petit frère très sympa aussi et son papa était infirmier en hôpital psychiatrique, en HP, un monsieur formidable. Et je me rappelle, il détonnait un petit peu dans les réunions de parents d'élèves parce que le papa avait une crête de quepon, de punk, voilà. Et c'était un papa pas comme les autres papas, voilà. Et c'était chez ce Grégory que j'écoutais les Berru, Gogol Premier, La Horde, voilà quoi. Et là, je me rappelle d'un vrai choc musical, quoi. Voilà. Donc merci à cette famille. Non, c'était pas le papa de Com, c'était encore un autre papa. C'était le papa de Grégory. Alors, let's go.
Merci.
Porcherie.
C'est génial. Bon, bah, par contre, vous ne pourrez pas. Tiens, je vais me le rajouter sur ma playlist celui-là parce que j'avais salué à toi, mais j'avais oublié Porcherie. Vous irez écouter sur internet et vous allez vous régaler, quoi. C'est pas de la musique, c'est du bruit, comme disaient les anciens. Gibrable, t'as rien compris. Bien sûr que c'est de la musique. Bah, j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Sardou, mais on peut pas tous écouter Michel Sardou, quoi. Bien sûr que c'est de la musique. C'est même très calme hein, pour du punk. Hein. C'est même très très doux. C'est très très apaisé même. Très apaisant même, j'ai envie de dire. Voilà, les amis, pour ceux qui ne connaissaient pas les Béruriers Noirs, vous avez un bel article dans l'Humanité ce matin et aussi une exposition à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Non, il n'y avait pas de boobs à l'air à l'instant, pas du tout. La jeune femme était habillée. Mais par contre, il faut avoir vraiment envie d'en voir pour les voir. Je vérifie. Ah non, la dame, elle était totalement habillée. Totalement habillée. Tout va bien, tout va bien. Allez, qu'est-ce qui reste ? Ah, bon, ah oui, le casque. Le casque, le truc Apple Vision, là. Qu'est-ce que ça vaut, ça ? C'est où, ça ? Voilà. Bon, là, il n'est pas encore en France. Hein. Il peut s'acheter qu'aux États-Unis. On dit Apple Vision, hein, c'est ça ? Voilà, ou Apple Vision, on dit un petit peu comme on veut. Donc ça coûte très très cher, c'est pas encore disponible en France, mais on en parle déjà beaucoup. L'Apple Vision Pro, voilà, certains journalistes l'ont loué à des sociétés françaises, on peut pas l'acheter, mais voilà, l'ont loué pour l'essayer. Le Figaro est un peu tombé sous le charme, mais se demande à quoi ça va servir, quoi. Ce que le Vision Pro donne à voir, marcher sur Mars, revivre les moments forts de sa vie, se distraire, travailler autrement, le casque Apple promet le meilleur des mondes. Changera-t-il le quotidien de ceux qui vont l'adopter ? C'est la grande question. Le Figaro l'a testé, c'est parti. Papsan en a acheté 3 ? Non, je ne te crois pas. Globzoul. Il faut le voir pour le croire. Nous sommes sur la Lune. Tout autour de nous s'étale de longues plaines cendrées parsemées de proches dont l'ombre intense procure un réalisme poignant. Dans le ciel, le soleil darde ses rayons bienveillants pendant qu'une demi-terre monte au firmament. Devant nous se dresse une série d'icônes familières héritées de l'univers de l'iPhone. Un regard et un claquement de doigts suffisent à ouvrir une app et à l'afficher à l'endroit de notre choix dans un rayon de 180 degrés, projection cinéma, visiophonie en 3D, dessin en relief, retouche photo, tiens. Bureautique, nous pouvons vaquer à nos occupations, travail comme loisir, voire les empiler côte à côte, en profitant de ressources quasi illimitées de ce nouvel espace virtuel. Pas de doute, nous sommes déjà dans le futur. Nous avons testé donc l'Apple Vision Pro, l'ordinateur spatial d'Apple. C'est comme ça que il en a vraiment acheté, Papsan, c'est vrai ? Ok, cool. Apple l'appelle l'ordinateur spatial, lancé le 2 février aux États-Unis uniquement. La sortie mondiale est présentée entre juin et la fin de l'année, donc c'est pas pour tout de suite. Les Américains l'ont lu avant tout le monde. Ce masque de réalité virtuelle permet d'afficher et d'interagir avec des univers virtuels. Il sait aussi faire apparaître en surimpression de l'environnement réel. On parle de réalité mixte, avec une qualité stupéfiante, ringardisant la concurrence et ouvrant la voie à une nouvelle ère informatique spatialisée en 3D. Comme toujours avec Apple, la prise en main était un modèle de simplicité. Il suffit de placer le masque sur le visage pour que le système analyse automatiquement l'écartement des yeux. Hein, ça marche très bien. Bon, Apple, ils savent faire. Face à un mur d'icônes semblable à l'interface popularisée par l'iPhone, il suffit de regarder un élément pour le sélectionner, comme on le ferait avec le pointeur d'une souris. Ensuite, on l'active en pinçant uniquement le pouce contre l'index. On fait également défiler les apps d'un mouvement de poignet. On utilise les deux mains pour agrandir les photos issues de sa bibliothèque ou de Street View. Tout se manipule désormais avec le regard et deux doigts. C'est ultra intuitif, naturel, précis, beaucoup plus efficace que les joysticks utilisés par les autres solutions de VR. Je vois parce que j'ai essayé un petit peu moi. Les Oculus, tout ça. Apple ne s'est pas contenté de créer un énième masque VR. Il choisit de superposer les mondes virtuels et réels afin de profiter du meilleur de chacun. Grâce à une molette située en haut à droite du masque, il est même possible de contrôler le niveau de transparence afin de choisir entre le monde réel ou un environnement sublime fourni par Apple, surface de la Lune, le désert de Yosemite, le sommet d'une montagne, une plaine de sable blanc, voire d'opter pour un savant mélange des deux. L'immersion est d'autant plus envoûtante que l'œil est incapable de percevoir les pixels de l'écran, peut se couper du monde totalement, comme conserver un pied dans la réalité pour éviter les sensations d'enfermement ou de claustrophobie. Quels que soient les choix, la qualité du rendu est impeccable. Aussi impressionnante que soit cette débauche de technologie et de savoir-faire, on peut raisonnablement se poser la question de l'intérêt du Vision Pro. À quoi ça sert ? La marque américaine reste évasive pour l'instant, hein, ne propose que des pistes de découverte. Nul ne sait exactement ce que les développeurs feront d'un outil aussi puissant, ni ce que le grand public et le monde professionnel vont répondre favorablement à ce nouveau concept. Parmi les applications les plus impressionnantes, par exemple, il y a la salle de cinéma personnelle qui déploie un écran virtuel équivalent de 30 mètres de large. Apple prévoit également de retransmettre des compétitions sportives immersives, notamment du basket. Ça, c'est peut-être pas mal, ça. À l'essai, c'est envoûtant. On a réellement l'impression d'avoir réservé la plus grande salle de cinéma du monde pour son plaisir personnel. Nous avons été impressionnés par l'aptitude du masque à enregistrer aussi des photos, des vidéos 3D. Voilà. On imagine sans peine et débouché pour les parents souhaitant revivre les premiers pas de leur progéniture en 3D. Les grands-parents désireux de voir grandir leurs petits-enfants à distance. Les amoureux, c'est par rapport à la distance. Les événements importants. Tout ça, tout ça. 4,6 qui dit « Je m'endors, t'es en live, je me réveille, Pépin est en live, je reviens à midi, t'es en live, je rentre le soir, t'es en live, je conclue que tu veux mon échec scolaire. » Dracomassi, non, je veux ton bonheur. Et ton bonheur ne passe pas par l'échec scolaire. Donc je te somme de quitter ce live. On pourrait se gargariser des vertus de l'application de pleine conscience, avec un utilisateur qui est immergé dans un essaim de plumes volantes et de sons apaisants, du réalisme des conversations vidéo de FaceTime, de l'étrange impression produite par la reproduction des yeux de l'utilisateur sur le devant du masque afin de conserver le contact avec les personnes alentours, ou encore du potentiel énorme du domaine du jeu vidéo. L'un des usages les plus prometteurs résulte certainement de la reproduction sans latence de l'écran d'un MacBook. Muni de son seul masque et de l'ordinateur, un professionnel peut ainsi accéder à tout son travail en cours. Hein. Voilà, en fait, c'est l'ordinateur qui vient littéralement sur vos yeux. Il peut l'ouvrir dans de multiples fenêtres disposées à 180 degrés autour de lui. C'est pas le petit écran du PC, enfin ici du MacBook. Quoi. C'est vraiment tout autour de vous. Interagir avec des collègues distants en visiophonie, effectuer de la retouche photo, ça peut intéresser Buckingham Palace, ou du montage vidéo avec un confort d'affichage équivalent à de multiples écrans. Le Buckingham Palace, c'est moi qui l'ai rajouté. Les FaceTime doivent être fous, dit Chine. Oui, ça peut être pas mal. En vrai, ouais. L'Apple Vision Pro souffre cependant de quelques limitations. S'il a résolu celui de l'exclusion du monde réel grâce à la transparence, il engendre une fatigue visuelle, c'est fatigant pour les yeux. Plus importante qu'à l'accoutumée, après 1h30 de visionnage, les journalistes du Figaro disent qu'on a été obligé de faire une pause. Malgré des possibilités stupéfiantes, il reste incertain que les pros et le grand public portent un appareil de 600 grammes sur le crâne et les yeux pendant des heures. Hein. Mais la technologie nous réserve toujours des surprises. L'Apple Vision Pro n'est sûrement que le premier d'une longue lignée. Lors de la sortie de l'iPhone en 2007, Apple faisait déjà preuve d'une avance technologique de plusieurs années sur la concurrence, avec le succès que l'on connaît. Quant au prix, il est stratosphérique, hein, 3499 euros. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Pourquoi lire le Figaro, demande Aronto, parce qu'ici on lit tous les journaux, on lit le Parisien, on lit, hop, je vous montre tout, on lit allez, mes petits journaux en haut là, on lit Le Monde tous les matins, on lit le Parisien tous les matins, on lit le Libération tous les matins, on lit le Figaro tous les matins, on lit La Croix tous les matins, on lit l'Humanité tous les matins et tous les articles, on lit l'Opinion tous les matins, on lit les Échos tous les matins, on lit l'Équipe tous les matins. Voilà, voilà pourquoi on lit le Figaro, parce qu'on lit tous ces journaux. Parce que quand on lit qu'un seul journal, on finit par devenir un petit peu con, puisqu'on reste dans une bulle informationnelle, toujours la même bulle, toujours la même ligne éditoriale, voilà, et on finit par se dire bah ouais, tout le monde pense comme moi, mon journal préféré pense comme moi, donc j'ai forcément raison, et les autres c'est un peu des cons. Et moi je pense qu'il faut lire un petit peu tous les journaux justement pour parfois se frotter à des idées, des opinions qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Les amis, un grand merci. La tentation est immense. La tentation est immense de lancer là, maintenant, tout de suite, une petite game de Valo. Mais non. Je vais résister à cet appel, à l'appel du Valo. Pourtant, l'enjeu est énorme. L'enjeu est énorme puisque ma prochaine game de Valo pourrait, en cas de victoire, me faire passer faire 3, ce qui n'est jamais arrivé. Mais je ne peux pas le faire parce que j'ai aussi le marathon de Paris dans 3 semaines, et je ne suis pas du tout dans la course, je ne suis pas prêt. Il faut que j'aille courir, il faut que j'aille faire du sport. Je n'ai pas couru depuis bientôt 10 jours, depuis le semi-marathon de Paris. C'est une catastrophe. Donc je vais aller faire du sport. Je vous retrouve ce soir, pas avant 9h, 9h30, 10h, 10h30, puisque ce soir je dîne avec mon amoureuse. Mais il y aura du Valo ce soir pour essayer de devenir faire 3. Et peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on verra bien. Donc merci les amis, je me suis régalé avec vous ce matin. Merci pour ce moment. On va faire un petit raid. N'hésitez pas à me proposer des gens qui sont en live actuellement, qui est en live, qui on pourra aller soutenir. Tiens, on va aller voir. Hop, s'il y a des amis, voilà, ça peut être aussi des des gens qu'on n'a encore jamais raid. Ici, on raid systématiquement en fin de stream depuis 3 ans et demi. Et c'est important. Il y a qui alors ? Ok. Bah, je crois que j'ai trouvé. Parfois, c'est moi qui choisis. Ouais, j'ai trouvé. Ok, c'est parti. Je charge le raid. On ne peut pas dire que ce soit un petit streamer. C'est un streamer reconnu, voilà, que j'ai déjà reçu, d'ailleurs, dans cette pièce pour une rencontre Étienne. On a parlé beaucoup ensemble de ce qu'il fait. Voilà, et on en parlait un instant, puisque vous me disiez que Papsan avait acheté un de ses masques, casque Apple Vision. Là, et bien justement, il est en live. Il est à Taipei, manifestement. Vous savez que Papsan fait beaucoup de stream IRL, voilà, et voyage beaucoup, c'est sa passion. Eh bien, on va faire un petit raid à l'ami Papsan. Voilà, bon, il y a déjà beaucoup de viewers, hein, plus de 4000 personnes, pour suivre Pap qui est en déj ou en dîner, je ne sais pas quel décalage horaire, à Taipei. Le raid part dans quelques secondes. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Mettez-moi de l'amour, de la lumière, du bonheur dans ce monde. On se retrouve ce soir assez tard, je pense à partir de 22h. Allez, de l'amour, de l'amour, de l'amour. À ce soir, ciao. Et merci beaucoup.
Dieu merci en fait, c'est bien. Dieu merci, j'ai bien mangé. Thank you.
S'il vous plaît.
Et voilà, je suis content, c'est le plus important. Oh, Samuel Etienne. Merci. Merci beaucoup pour le raid, ça fait longtemps en plus. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous. Certains ont dû me voir quand on avait fait l'interview. Comment s'appelle l'émission ? L'interview Étienne ? La parole Étienne ? Je sais plus exactement, mais on avait fait une émission. Donc peut-être que vous en souvenez. Merci à vous. Merci Sam, c'est très gentil. Et j'espère te voir quand on se verra à Paris. Quand je viens à Paris, pardon. Je reviens normalement à la fin du mois pendant quelques jours. Ou sinon, je viens en avril. La rencontre Étienne. Voilà, la rencontre Étienne. Exactement.
C'est complet. Voilà.
Let me introduce you a journalist who became a streamer, like on Twitch, and he just raided me with almost 3,000 people.
Whoa!
Okay.
A journalist from France?
Yeah, a French journalist.
Tell him to write about Rush Hour 5. Hey, you know he drinks snake cum? Write about that.
No, but you know, I'm not kidding. He's an actual journalist on TV, French TV.
Really?
Yeah.
Well, tell him to write about you drinking snake semen. Ah, he's gonna eat chicken testicle too. You can't end stream till you try.
At what time?
No, you gotta go now.
Let's do it fast.
We gotta do it now.
Yeah, let's go now.
We're gonna eat some chicken balls.
Let's go. Oh, wait. I'm tired. I want some drink. I need water.
Boba. Boba.
Boba. Okay. On va boire de l'eau. Je crois que j'ai de l'eau dans mon sac. C'était le destin, parce que j'ai jamais d'eau sur moi.